Vous écoutez le libre journal de Serge de Becquet, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 16 juin 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 17 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros, où elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la résistance, bonsoir.
Résistons de plus en plus.
Résistons comme la lune, non c'est vrai.
Et comme dans les chansons.
Bonsoir.
Bonsoir Serge.
Vous allez bien?
Très bien.
Alléluia. Marquis. Oh.
Très bien.
Ça irait mieux si vous le disiez dans le micro, mais enfin...
oui. Mais j'ai pas de dossier. Très bien.
Ça fait quand jamais que vous êtes venu sur cette radio, enfin à ce micro, pour quand, pour la première fois?
Oh, je sais pas, maintenant, ça va faire 15 ans.
15 ans, ouais.
Pas dans votre émission.
Ouais. Et ça fait 15 ans qu'on vous dit dans le micro et vous persistez à...
Oui, mais il y a 15 ans, ça m'agaçait parce que je pensais que c'était pour faire diversion.
Ah, mais à ce moment-là, on avait des chaises plus grandes.
Vous connaissez l'histoire des... dites bonjour au micro. Bonjour, micro.
Bonjour, micro. Voilà. Je vous remercie, oui.
Oui, bon. Monsieur Raffard de Brienne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous portez-vous de façon satisfaisante?
Mon Dieu, je dois m'en satisfaire en tout cas.
Alors, vous savez que quand on peut se satisfaire, il faut répondre oui, parce que si vous commencez à expliquer tout...
Ah non, ben justement, je voulais vous expliquer un petit peu tout ça.
Bon, ben, je pense
j'ai cinq principaux chapitres et quatre petits appendices, si vous
êtes... Il faut vous faire opérer.
Et attendez un peu, tout à l'heure, on va voir le docteur Popovski qui va venir nous parler d'un sujet qui peut vous intéresser, puisque c'est élever et soigner son enfant autrement. Donc,
pour en faire quoi?
Il nous le dira probablement. Alors, le programme de cette soirée, qui naturellement est chamboulé parce que mes invités ne sont pas à l'heure. Alors, je vais sévir maintenant contre cette tendance.
Fâcheuse à l'anarchie.
Fâcheuse, oui. Donc, nous recevons, alors, comme je le disais, qui ne sont pas là. Michel de Gégère qui vient de nous parler, qui est censé venir nous parler de l'université d'été de Renaissance catholique. Ensuite, nous recevrons une étudiante qui s'appelle Marie Saint-Éloi et qui va nous parler d'une conférence de Roland Hureau qu'elle a organisée. Alors elle vous en dira plus et à moi aussi, ça ne manquera pas de m'intéresser. Nous recevrons, comme je viens de le dire, pourquoi vous riez, vous?
Comme ça.
Bon.
Saint-Éloi.
Pierre Popovski, pédiatre, pour son livre Élever son enfant, qu'il a élevé son enfant, élevé et soigné son enfant autrement, qu'il a écrit avec le docteur Simeka. Ensuite, nous recevrons Daniel Raffard de Brienne, président de l'Union des écrivains catholiques.
L'association des écrivains catholiques.
L'association, oui, c'est l'Union, c'est plutôt chez les soviétiques, c'est l'Union. Chez les catholiques, c'est l'association, qui nous parlera de trois livres. Un livre que j'ai lu, qui s'appelle « Droit vers l'azur ». Un livre que j'ai, survolé, mais avec attention quand même, parce que il est... Enfin, c'est quand même une chose que je connaissais un peu, qui est un livre d'apologétique, qui s'appelle « Il n'y a qu'un seul Dieu », ce qui n'est pour moi ni une information ni une nouvelle. Mais ça, l'avantage du livre de Daniel, c'est que il met bien les choses au point. Et puis un livre pour les enfants qui est très joliment écrit, alors que j'ai lu aussi, qui s'appelle... Je l'ai lu en venant dans le métro, je vous le cache pas, parce que c'est quand même pas une somme très lourde, ça fait 77 pages. Donc ça se lit facilement, c'est très très joli, c'est l'histoire de Constance de Compiègne, la petite religieuse du Carmel de Compiègne qui a été guillotinée. Et bien que ce soit un livre pour les enfants, j'ai appris beaucoup de choses dedans. Curieux, hein. Et puis nous recevons ensuite le père Jean-Paul Argouache qui nous donnera des nouvelles du village d'Enfants de Riaumont et du village du Guerveur, de la construction de l'église, mais surtout qui nous parlera du colonel Argou. Et enfin, nous passerons quelques instants avec le marquis Jean-Paul Chériquès de Olmeta et autres lieux découverts à marée basse, qui nous racontera diverses aventures récentes.
Toutes chaudes. J'en profite pour vous dire que je suis venu en taxi.
Oui, et mais vous pouvez toujours présenter une note de frais à Jean Ferré.
Oui, non, bien sûr, non, je n'y songe même pas. Et tout ça pour vous dire que tout est embouteillé, donc ce qui peut expliquer certains retards.
Ah, oui. Merci.
C'est le périph' embouteillé, on est sorti du périph', on est obligé de le reprendre, c'est encore plus embouteillé en dehors du périph', donc j'ai mis une heure pour venir de la porte de Clignancourt. Donc ça peut expliquer
on peut
que...
On circuler dans Paris.
Mais c'était extraordinaire, nous, il n'y avait pas un chat quand on est parti. Dans le nord de Paris. Donc,
mais puisqu'on en est à raconter nos aventures, quand je suis arrivé à la Courtoisie, il y avait un grand émoi dans le quartier, il y avait des policiers en gilet pare-balles et tout. Il y a une dame qui m'a arrêté en posant un rempart de son corps dans la rue en me disant... Ne passez pas, il y a un homme armé. Je dis, mais je les vois bien en bleu, là, ils sont... Elle dit, non, un monsieur civil avec un pistolet à la main. Je dis, vous êtes sûr que c'est un pistolet? Elle m'a dit, oui, c'est pas un revolver. Elle m'a dit, mais c'est la même chose. Alors, j'ai dit, madame, vous n'y connaissez rien, laissez-moi passer. Voilà. Finalement, alors, je sais pas s'ils l'ont abattu, j'espère, parce que...
Voilà. Une dame qui a fait un rempart de son corps, mais...
Oui, non, mais enfin, c'est une image.
Ah bon,
c'est une image. Est-ce que vous voulez que je vous apprenne à lire un journal?
Ah oui, ça m'intéresse.
Alors, voilà, je prends un exemple. Là, dans Le Monde, en page 15, il y a un entrefilet de 4 lignes et demie exactement, que je m'en vais vous lire sur le champ. Il est intitulé « Faits divers ». Et le voici. Un jeune homme de 20 ans, domicilié dans un quartier sensible de Grenoble, est mort dans la nuit de lundi à mardi 15 juin au centre hospitalier de la ville, des suites d'une agression au couteau lundi matin. L'agression s'est produite dans le secteur de la Villeneuve où habitait la victime. Alors je pose la question.
Oh là.
Quelle information peut-on tirer de cet entrefilet?
Que la victime habitait dans la ville donnée, c'est tout.
Et qu'elle est sensible?
Pas du tout. Alors, on peut en tirer la conclusion, premièrement, que la victime n'est ni juive ni arabe. Parce que c'est en page 15, 4 lignes et demie. Si ça avait été un juif ou un arabe, ça serait à la une, avec un titre de 25 cm de haut. D'accord? On peut en tirer la conclusion que la victime n'est pas un maghrébin. D'autre part, parce que il est précisé un jeune homme de 20 ans. Dans le cas contraire, on aurait dit un jeune de 20 ans. Vous me suivez toujours?
Oui, ça c'est pas discutable, mais enfin...
Ah non, un jeune homme, c'est jamais utilisé dans ce cas-là. On dit un jeune. On voit bien que vous ne lisez pas beaucoup la presse, mon cher Daniel.
Je dis poliment.
Alors, domicilié dans un quartier sensible de Grenoble. Qu'est-ce que c'est qu'un quartier sensible? En français, c'est un territoire occupé. Ou, si vous préférez, une zone de non-droit. Et il est mort dans la nuit à lundi, des suites d'une agression au couteau lundi matin, c'est-à-dire qu'il a été poignardé.
Oui.
Une agression au couteau, il est... Non mais on pourrait penser qu'il est mort de peur en voyant le type arriver avec un couteau. Non. Donc voilà, on sait maintenant qu'un jeune Français a été poignardé dans un territoire occupé de la ville de Grenoble, et qu'il en est mort, vous voyez. Comme quoi on peut savoir des choses en lisant la presse d'une façon un peu...
C'est une information à la noix, ça.
Oui, c'est ça.
Alors les autres quartiers sont des quartiers insensibles.
Voilà, il y a des quartiers insensibles.
Probablement, oui.
Voilà une chose que je voulais dire. Ah non, il faut que je lise d'abord du courrier. Je dis tout ça parce que j'avais prévu de faire cette revue d'actualité après avoir donné la parole aux premiers invités, mais comme ils se font un peu attendre à cause des embouteillages, probablement liés...
Peut-être à une manif, ça je ne sais pas.
C'est possible.
Je ne sais pas.
Alors voilà, je vais vous lire une lettre que j'ai reçue ce soir, parce qu'elle est signée, donc je la lis. Cher monsieur, Bernard Lugan... À votre différence, répond au courrier. Ceci dit, vous êtes très estimable au niveau de la qualité de vos émissions. Maintenant, soyez sincères. La question est, 2 points. Pourquoi avoir sacrifié plutôt Bernard Lugan qu'à Mich? Alors que vous savez pertinemment que Lugan est beaucoup plus apprécié. Les 3 autres auditeurs de Radio Courtoisie que je connais disent comme moi... Et c'est avant tout donc votre mauvaise action que vous devez réparer SVP. Voilà. Alors ça appelle une réponse de ma part. Moi je réponds pas au courrier quand c'est un courrier qui n'est pas accompagné d'une enveloppe timbrée et adressée. Parce que, contrairement à ce que pourraient croire certains auditeurs, je ne dispose pas d'un nombreux secrétariat. C'est-à-dire que mon secrétariat, c'est moi-même, et je reçois à peu près 30 lettres par jour. Donc si je m'amusais à répondre à 30 lettres par jour, en comptant, il faut bien 5 minutes pour répondre à une lettre. 5 minutes pour répondre à une lettre, ça fait donc 150 minutes. Avec les espaces entre eux, ça fait donc 180 minutes, autrement dit 3 heures. Je passerai 3 heures à répondre au courrier. D'autre part, je dépenserai 15 euros par jour de timbres et d'enveloppes et de papier, ce qui est pas loin de mon revenu mensuel. Donc, je ne peux pas répondre au courrier quand il n'est pas accompagné d'une enveloppe timbrée et adressée. Maintenant, soyez sincères, la question est pourquoi n'avoir pas sacrifié, pourquoi avoir sacrifié plutôt Bernard Lugan qu'un MIF ? Alors, alors que vous savez pertinemment que Lugan est beaucoup plus apprécié. Alors, je vous dirais que ça, je ne le sais pas du tout parce que j'entends trois sortes de choses. Quand allez-vous nous débarrasser d'Amif qui nous emmerde ? Quand allez-vous nous débarrasser de Lugan qui nous casse les pieds ? Et quand allez-vous cesser de venir nous pomper l'air sur cette radio, vous feriez mieux de laisser votre micro à quelqu'un de plus intéressant que vous. Donc, ça dépend finalement des gens qui parlent, vous voyez. Vous me dites que vous-même et vos trois amis trouvent que Lugan est plus intéressant qu'Amiche. Il y a des gens qui me disent le contraire. Et il y a des gens qui pensent que c'est moi qui ne suis pas intéressant du tout. Puis il y a aussi des gens qui aiment bien les trois. Il y a des gens qui aiment deux sur les trois. Cette opinion, elle n'engage que ceux qui la professent. Et en tout cas pas moi. D'autre part, il ne s'agit pas d'un sacrifice, il s'agit d'une décision que nous avons prise, que j'ai prise après en avoir informé Bernard Lugan, qui est convenu, il l'a dit à ce micro, qu'elle était parfaitement justifiée. Que je collabore à cette radio dont j'ai été un des fondateurs, fait entrer à la radio comme collaborateur, comme directeur d'émission, plusieurs personnes, je les ai citées la dernière fois, je peux recommencer ce soir, mais ça va te faire un peu rengaine. Et je pense que je n'ai pas de complexe à avoir sur ce plan. Je suis le seul, absolument le seul directeur d'émission à avoir concédé des parties de mon émission à d'autres personnes qui ont donné satisfaction aux auditeurs, qui se sont fait reconnaître comme de bons directeurs d'émission et comme de bons intervenants. Et je suis le seul, je le répète. Alors s'il y a des reproches à faire sur ce que vous appelez, monsieur, des mauvaises actions, c'est pas à moi qu'il faut faire ce reproche. Je ne veux plus donner d'aussi importante partie de mon émission parce que je tiens à y revenir plus régulièrement, ce qui est mon droit le plus strict. Mais vous, auditeurs, vous avez parfaitement le pouvoir, le droit, et je dirais pour ceux qui tiennent à l'émission de Bernard Lugan, le devoir de demander à Jean Ferré, qui est le directeur du comité éditorial de la radio, de bien vouloir trouver une solution pour que Bernard Lugan puisse intervenir régulièrement. Je pense que c'est possible, en tout cas ça doit être étudié, et je pense que c'est le droit, c'est mon droit de le dire, c'est tout à fait le droit de Bernard Lugan de vouloir continuer à faire son émission, et c'est tout à fait le droit des auditeurs et cotisants à la radio de demander qu'on tienne compte de leur opinion, de leur goût et de leur desiderata. Mais ça n'est le droit de personne de m'imposer quelque chose que je ne veux pas. Ça ne regarde que moi, ça n'est pas une mauvaise action, je le répète, et je ne suis pas du tout, mais pas le moins du monde, ni fâché, ni même en froid, ni même en délicatesse avec Bernard Lugan, qui reste un de mes plus vieux amis. C'est tout simplement que, pour des raisons qui me regardent et que sur lesquelles je ne vois pas la nécessité de m'étendre, j'ai décidé de reprendre plus d'émissions. En ce qui concerne Daniel Amif, je dirais que, à la différence de Bernard Lugan, Daniel Amif n'intervient pas seulement une fois par mois, il intervient chaque fois que je suis absent, il est en quelque sorte mon remplaçant titulaire, si j'ose dire, Et la solution qui consisterait à lui retirer les émissions ne résoudrait absolument rien en ce qui concerne ma situation personnelle, la décision que j'ai prise moi sur la façon dont je dirigerai cette émission à l'avenir. Ça ne m'arrangerait pas, pour tout dire. Et l'objectif de mon opération, c'est de m'arranger moi. Ce qui me paraît parfaitement légitime et parfaitement acceptable. Voilà. Alors, quant à réparer, comme vous le dites, comme vous me le demandez, cher monsieur, je vous répondrai que depuis le début de cette radio, j'ai collaboré, j'ai dirigé mon émission, et j'ai collaboré de toutes les façons possibles et imaginables au succès de cette radio, sans en recevoir naturellement la moindre le moindre bénéfice financier. Nous sommes tous bénévoles et le bénévolat suppose de la part des gens qui profitent de cette situation en écoutant nos émissions un tout petit peu de considération. Je demande que ça, je ne demande pas d'argent, je ne demande pas de récompense, je demande ce qu'on appelle en bon français de la considération et du respect. Et je voudrais bien qu'on arrête de me traiter de salaud, de voyou, de destructeur de la radio, comme certains le font, d'ailleurs de façon anonyme, ou d'auteur de mauvaises actions. Voilà ce que je voulais dire. Je vous signale que l'adresse de la radio, c'est 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Donc vous pouvez prendre une carte postale, puisque monsieur, vous faites partie de ces gens qui prennent les cartes postales dans les bistrots, cartes postales publicitaires, pour faire votre correspondance. Ben vous retournez dans le même bistrot, prenez une carte postale, vous écrivez à Jean Ferré, vous lui dites: Jean Ferré, j'aimerais que Bernard Lugan obtienne une émission, et je suis absolument certain que Jean Ferré, qui n'a en tête que de faire plaisir aux auditeurs de Radio Courtoisie, comprendra, devant le nombre des demandes, qu'il faut accéder à cette requête. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Bonsoir, Michel de Gégère.
Bonsoir, Serge.
Est-ce que vous avez un mot d'excuse ?
Ben, il y a pas mal de circulation, mais j'ai oublié de demander à ma maman de me faire un mot. J'ai espéré que ma bonne foi et ma bonne mine suffiraient.
Non, ça ne va pas, ça. Ça ne vaut pas. Vous serez en retenue après l'émission.
C'est un plaisir d'être en retenue ici.
Oui. Je me félicite de vous voir parce que vous allez nous annoncer quelque chose que moi je sais déjà, mais que nos auditeurs attendent avec impatience. Je pense que c'est la reconduction d'un rituel maintenant parfaitement établi depuis
13 ans. 13e année.
Tout ça ne nous rajeunit pas.
Et non.
Vous souvenez les premières universités d'été où nous étions en culotte courte avec nos cerceaux?
Oui, il y a 13 ans, on n'était pas tous en culotte courte, mais enfin...
Moi, c'est... Vous, oui. Alors, quel est le thème de cette université?
Alors, donc, il s'agit de l'université d'été de Renaissance catholique, qui va avoir lieu cette année à Villepreux, près de Versailles, dans le magnifique domaine de Grand Maison. Nous sommes invités par Monsieur de Saint-Seine, bien connu de nos amis. Et donc, c'est
une faire un peu de publicité quand même, si je peux me permettre. Oui. Parce que je crois qu'on organise des mariages là-bas aussi, des baptêmes, des réceptions, des choses comme ça.
Oui, toutes sortes de mariages, même de séminaires d'entreprise.
Voilà. Et vraiment, si vous avez...
être intéressés, c'est vrai que c'est un endroit
extraordinaire. Magnifique. Vraiment, d'abord, c'est très beau, le service est magnifique, les salles sont splendides, l'équipement est parfait.
Tout ça a été refait dans un goût parfait. Ce sont les très très beaux communs du 18e siècle, d'un très beau château.
Des communs qui ne le sont pas.
Voilà. Qui ont été refaits avec un goût parfait par monsieur de Saint-Seine, et qui nous invite très gentiment pour nos universités d'été. Et donc cette année, donc du dimanche 11 au mercredi 14 juillet 2004, 4 jours qui comprennent un dimanche, le 14 juillet qui, comme on le sait, est férié, et donc un grand pont entre les deux. Donc je pense que ça doit être assez facile de s'organiser, si on le veut, pour y participer. Et donc cette année, nous consacrons l'université d'été au thème de la laïcité, sous le titre « Le piège de la laïcité ». Pourquoi le piège de la laïcité ? Eh bien parce que nous avons eu le sentiment qu'on assistait à une formidable manipulation des esprits qui consistait à ceci, que depuis des années, bientôt des décennies, On nous explique que l'immigration est une chance pour la France, que le pluralisme, la société multiculturelle, multiraciale, multiconfessionnelle va être un très grand enrichissement pour notre pays qui de toute façon est un pays multiracial, multiconfessionnel depuis l'origine, un grand carrefour des invasions, que tout ça va se passer dans une très grande paix, un très grand enrichissement mutuel, et puis constatant la présence de communautés musulmanes très importantes maintenant dans notre pays, dans un contexte de soulèvement mondial d'un islam activiste, ça pose un certain nombre de problèmes de cohabitation. Et on nous dit qu'on a la panacée pour répondre à ces problèmes, problèmes qui n'existaient pas il y a 10 ans, il y a 20 ans, on explique qu'il n'y aurait pas de problème. Maintenant, il y a des problèmes, et la solution de ces problèmes, elle va passer par la réanimation de cette vieille barbe qu'est la laïcité républicaine. Alors, nous avons trouvé ça un petit peu énorme. Nous vivons dans un pays dont l'essence, dont l'identité même est d'être un pays catholique, puisque la France, elle est née du catholicisme. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas toléré tout au long de son histoire des minorités, de gens qui n'étaient pas catholiques, de juifs, de protestants ou autres. Mais enfin, la France, son identité, c'est d'être catholique, puisque la France, c'est la résurrection de la Gaule par Clovis qui a fait l'unité de la Gaule au nom du catholicisme en renversant les monarchies visigothes qui étaient ariennes et en faisant l'unité du pays autour de la foi des gallo-romains qui était la foi catholique.
Donc, arienne pour les jeunes auditeurs.
Ce sont les gens qui ne croient pas à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ.
Voilà. Il ne s'agit pas des bons Arniens qui ont défilé sur les Champs-Élysées en 1940. Il s'agit des Arniens, c'est-à-dire des disciples de
Arius. Voilà. Et donc, nous avons trouvé
disciples d'Adolphe.
Il y avait là quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce pays catholique, à qui on a expliqué qu'il n'y avait pas de raison d'être catholique, que la multiplicité des religions sur son sol serait une chance, et bien maintenant, face au problème que pose la présence de musulmans, la présence de l'islam en masse sur notre pays, on y répond par des lois antireligieuses qui touchent les musulmans en apparence et qui vont toucher à la présence visible du catholicisme. Donc après avoir essayé de noyer l'identité catholique de la France par l'immigration, y être pour une bonne part parvenu, bien on va achever le processus en augmentant les lois antireligieuses, comme si la France souffrait aujourd'hui d'un surcroît de religiosité, comme si le problème de la France aujourd'hui était que c'est un pays trop religieux, alors que l'on sait bien qu'il n'y a pas de problème posé par le catholicisme en France, qu'il n'y a que un problème posé par la présence de communautés issues de l'immigration. Donc on ne règle pas le problème de l'immigration, on s'attaque à peine à celui de l'islam parce qu'on ne veut pas s'y attaquer de façon spécifique, mais on s'attaque à toutes les religions et aux faits religieux, alors que l'on sait aussi qu'en réalité aujourd'hui où les communautés musulmanes ont atteint un tel nombre qu'on ne peut plus penser, je crois, que la solution de l'immigration vienne un jour par le retour général au pays des gens qui se sont installés chez nous, mais passera, si cette solution vient un jour, ne peut venir que d'une assimilation par conversion. C'est-à-dire que si un jour il y a une chance que notre pays ne sombre pas dans la guerre civile, c'est si un jour il peut se trouver l'occurrence que l'Église catholique retrouve la force de convertir ses populations et d'en faire des chrétiens. C'est le seul à peu près espoir qui, à nos yeux, existe encore de sauver ce pays. Eh bien, cet espoir, on veut l'étouffer. Et pour nous défendre, soi-disant, de l'islam, eh bien, on veut lutter contre le catholicisme. Alors, c'est ce piège que nous nous sommes proposés de démonter cette année par une série de conférences qui vont tourner autour de ces thèmes, qui vont montrer que, contrairement à ce qu'on nous raconte, eh bien, la laïcité n'est ni la traduction de la doctrine catholique de séparation de l'Église et de l'État, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, on voudrait nous expliquer que la laïcité est un concept catholique. C'est absolument faux. Le concept catholique, c'est la distinction du temporel et du spirituel, mais par la soumission du temporel au spirituel dans tous les domaines où le spirituel doit dominer, dans tous les domaines où le salut est engagé. Donc nous allons montrer que la laïcité, ça n'est pas catholique, ça n'est pas la doctrine catholique. Nous allons essayer de montrer que ça n'est pas le génie de la France, que le génie de la France, il n'est pas laïque, il est catholique. Et puis, nous allons essayer de montrer que, de toute façon, les réponses laïques à la présence musulmane sont dérisoires, que l'islam, pour le coup, est irréductible à la laïcité, et que si l'on croit que lorsqu'on a des colonies de plusieurs millions de musulmans sur notre sol, on va régler le problème en interdisant aux jeunes filles de porter un voile à l'école et en leur interdisant d'être en maillot de pièces à la piscine, eh bien on se moque du monde. Parce qu'au fond, derrière toute cette idée, il y a l'idée d'assimiler les musulmans en les entraînant dans notre immoralité, en les entraînant dans notre décadence. On n'a rien à leur proposer, on ne veut pas leur proposer la conversion, puisqu'on pense que le fait religieux est un mal en soi, on veut leur proposer l'irreligion, on veut leur proposer l'immoralité, comme le modèle français, le modèle de civilisation par lequel nous allons les intégrer et grâce auquel nous allons assurer la paix civile. Nous pensons que ce projet est criminel et qu'il est odieux.
Et en plus, il y a quand même une différence fondamentale entre l'islam et les religions chrétiennes, c'est que les religions chrétiennes n'ont pas, font bien le départ entre Dieu et César. Alors que pour l'islam, Dieu est en César et César est en Dieu. Et c'est-à-dire que c'est pas seulement l'islam n'est pas seulement une attitude religieuse dans un rapport de l'homme à Dieu, c'est aussi un système de gouvernement, un système, c'est un pouvoir temporel
qui couvre, c'est une politique.
C'est une politique qui couvre tous les domaines, qui est par exemple radicalement étrangère à la conception de la séparation des pouvoirs qui est fondamentale chez nous. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Tous les pouvoirs sont réunis entre les mêmes mains, que ce soit le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, législatif.
Oui, mais alors, ce que l'on voudrait montrer, c'est que l'idée, si vous voulez, qui est aujourd'hui dominante chez les gens qui ont pris conscience du danger de l'islam, c'est que on peut garder les musulmans chez nous en leur imposant cette séparation. Sauf que cette séparation, elle est propre à leur identité même de musulmans.
C'est aussi impossible que de changer
le contenu de leur religion. Et par ailleurs, réduire la distinction du temporel et du spirituel qui est propre au catholicisme à l'idéal républicain de laïcité, c'est une caricature et un mensonge. Donc ce sont ces deux choses que nous voulons distinguer. Nous voulons à la fois montrer que l'islam ignore la séparation du temporel et du spirituel, mais que la laïcité pratique une séparation qui n'est pas cette distinction, pratique une séparation étanche, c'est-à-dire qu'elle relègue la religion dans la sphère privée, et ça n'est pas catholique. Il ne faudrait pas, si vous voulez, il y a toujours une grande tentation, c'est de croire que la vérité est le contraire de l'erreur. L'erreur musulmane, c'est la confusion entre le spirituel et le temporel. Pas seulement ça, mais sur ce plan-là. Ça ne veut pas dire que la vérité catholique, ça soit la séparation absolue entre le temporel et le spirituel.
Non, c'est
dans la doctrine
l'un
catholique,
à la lumière de l'autre.
Voilà, l'un à la lumière de l'autre. Ils sont distincts sans être séparés, ils ont des relations, car le temporel et le spirituel sont censés se mêler dans une vie. On ne distingue pas ce qui est du temporel et du spirituel en permanence. Il y a des domaines mixtes, et dans ces domaines mixtes, le spirituel doit avoir le pas sur le temporel. Mais vous voyez ce que vous dites, on peut rapprocher de ce problème une actualité récente qui est celle que vous avez soulignée dans le livre journal, qui est celle de l'imam que l'on a expulsé. L'imam de Vénissieux. On nous a dit que ce qui était grave dans ce qu'avait fait l'imam, au fond, c'est pas tellement qu'il batte sa femme, c'est qu'il dise que le Coran le permettait. Et donc, on arrive à cette situation où l'État promeut un islamiquement correct. C'est-à-dire que l'État croit qu'il va pouvoir imposer un Coran revu et corrigé par l'idéal républicain, un Coran qui serait politiquement acceptable. Et on vit dans cette illusion, on ne traite pas le problème de l'immigration, qui est le problème réel, on ne traite pas le problème de cette présence prégnante dans un vieux pays catholique de plusieurs millions de musulmans, on dit on va changer l'islam, et changeant l'islam, on va rendre les musulmans solubles dans la France républicaine. Le problème, c'est que cette France républicaine, sans Dieu, sans morale, sans principe transcendant, elle est de toute façon en train de courir à sa perte. Alors, d'une part, on ne peut pas y intégrer, c'est une rêverie de penser y intégrer les musulmans dans dans le nombre où ils sont aujourd'hui, et en même temps c'est pas souhaitable parce que c'est de toute façon un corps politique en voie de dissolution. Nous, ce que nous promouvons, c'est à la fois la restauration de la France catholique et la restauration de l'identité nationale par la réaffirmation des principes qui ont été les principes de ce pays, et non pas par leur dissolution dans les principes de la laïcité républicaine.
Il y a d'ailleurs un phénomène curieux dont je traiterai au cours de cette université d'été, c'est l'espèce d'effet boomerang qui fait que, au nom de la laïcité, on essaye de priver les religions en France de leur transcendance. Mais l'effet retour, c'est que la laïcité elle-même finit par être érigée en religion. C'est-à-dire que si on observe la façon dont la laïcité est imposée en France aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un dogme de la laïcité, qu'il y a des prêtres de la laïcité, qu'il y a un évangile de la laïcité, qu'il y a des saints laïcs. On découvre que...
Mais si vous voulez, ça c'est très intéressant, parce que au moment où il y a eu la tentative de réforme avortée de code de nationalité il y a une dizaine d'années, il y avait une commission de sages qui avait entendu toutes sortes de gens sur les problèmes posés par l'immigration et par la nationalité. Ça a été très intéressant, bon, il n'en est rien sorti, si ce n'est un rapport qui donnait toutes ses contributions, et malgré tout on avait fait venir une vingtaine, une trentaine ou une quarantaine d'experts du sujet. C'est toujours intéressant. Ce qui ressortait de tout cela, c'était que il y avait une espèce de désespoir de la part des gens qui étaient même eux-mêmes les plus immigrationnistes, qui étaient les plus favorables à l'implantation de communautés immigrées en grand nombre sur notre sol. Mais ces gens étaient un petit peu désespérés en disant le problème, c'est que nous n'avons plus d'idéal qui permettent de les assimiler. Malgré tout, on pourrait penser accueillir, peut-être pas dans le nombre où on les accueille, mais des éléments étrangers en France, mais s'il y avait un élément fédérateur qui permette d'en faire des Français. Le problème, c'est que nous ne savons plus ce que c'est qu'être Français, puisque nous n'avons plus de religion, nous n'avons plus de morale, nous n'avons plus de principes, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de paroisse, etc. Ces gens-là reconnaissaient ça. Et depuis, s'est développée effectivement une nouvelle tendance autour de gens comme Régis Debray ou autres, qui consiste à faire de la laïcité une nouvelle religion, et qui serait la religion républicaine. C'est pas nouveau. Pendant la Révolution, après la période des Cent-Dieux, il y a eu l'idée de restaurer
la
fête de l'être suprême. Nous en sommes là. C'est-à-dire que il y a beaucoup de livres qui sont parus sur ce thème, de gens qui ne croient plus en Dieu et qui disent oui, nous ne croyons plus en Dieu, mais de toute façon, on peut pas faire tenir une société sans Dieu. Donc il faut inventer une idée de Dieu sans Dieu. Et cette idée, c'est la laïcité. C'est une espèce de religion sans Dieu. Le ciel est vide, mais on est quand même tourné vers lui. Une espèce de religion par l'absurde.
C'est exactement ce que fait Debray, Régis Debray, Max Gallo, enfin des gens.
Ce sont des gens de bonne volonté, quelquefois. Oui, mais il faut leur dire que c'est peut-être bien d'avoir l'idée qu'il faut une religion, mais il y a quelque chose de paradoxal à faire de l'irreligion la religion. Je crois que c'est compréhensible par tout le monde.
Ouais. Moi, je pense que c'est un sujet d'une très grande actualité, et c'est un sujet aussi très, très intéressant, qui ouvre des réflexions vraiment passionnantes. D'ailleurs, il faut dire que les travaux des universités d'été de Renaissance catholique, c'est souvent le cas. Quand on voit récemment la déclaration du pape sur l'Inquisition, avec cette nouvelle repentance totalement hors de propos du pape, qui va à l'encontre de tout ce qui est dit maintenant par les historiens sur la réalité de l'Inquisition. C'est un sujet qui a été traité à l'Université de Renaissance catholique.
Oui, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire que là, le Vatican vient de publier les actes du colloque qui, dans le cadre de l'examen de conscience, donc lancé par Jean-Paul II, a été consacré à l'Inquisition. Et ces actes, bon, ne sont pas encore disponibles en français, mais il faudra qu'on les ait, parce que ça a l'air très intéressant. Les quelques échos que l'on en a montrent que que tout de même les historiens qui se sont réunis au Vatican à cette occasion, eh bien, ont tout de même mis à jour un certain nombre de vérités qui ne sont pas souvent dites. Notamment, bon, ils comparent le nombre de condamnations à mort par l'Inquisition et pendant ce temps, sur une même période, je me souviens pas de la période, mais ils donnaient l'équivalent, c'est-à-dire que les tribunes, dans une même période, les tribunaux civils avaient prononcé 100 000 condamnations à mort pour sorcellerie, exécuté 50 000 de ces condamnations. Pendant le même temps, le même laps de temps, qui est peut-être 100 ans, je n'ai plus la période en tête, hein, je voudrais pas dire de bêtises, mais pendant le même laps de temps, donc, où ces tribunaux civils exécutaient 50 000 personnes pour sorcellerie, l'Inquisition en exécutait 59. Ouais. Bon, alors, c'est peut-être 59 de trop, mais enfin, faut quand même remettre les choses dans leur contexte.
Donc, mais ça, c'est déjà un travail qui a fait Dumont.
Vous lisez la déclaration du pape, le pape met en garde contre toute interprétation abusive en disant, si vous voulez, la démarche du pape est une démarche conciliaire, c'est une démarche qui est une façon d'accomplir rétroactivement Vatican II. Et l'idée du pape est que des institutions comme celle de l'Inquisition ne sont pas conformes à l'enseignement de Vatican II dans la mesure où, en proclamant la liberté religieuse, la liberté religieuse répudie l'idée d'un enseignement coercitif de la vérité. Et donc, de façon rétroactive, il dit nous enlevons de notre mémoire collective ces comportements, nous les répudions. Nous répudions des comportements qui ne sont pas, etc. Mais sur l'épisode historique lui-même, il est assez prudent en disant attention, il ne faut pas faire d'anachronisme, il ne faut pas croire que parce que nous nous penchons sur la question de l'Inquisition, eh bien nous accréditons toutes les légendes noires qui courent sur elle. Il ne faut pas confondre l'examen objectif de la vérité avec le fait d'accréditer des légendes médiatiques, etc. Donc il faut faire très attention parce que souvent ces déclarations, on en a connaissance à travers des agences de presse qui sont tenus par les adversaires de l'Église catholique, à travers des journaux qui sont tenus par les adversaires de l'Église catholique, et ils ne retiennent de la déclaration que la demi-phrase qui va dans leur sens.
La meilleure preuve récente, c'est que le Vatican vient de publier un document dont le titre est, je crois, La charité chrétienne face à l'immigration, ça c'est le titre en français, dont absolument personne n'a parlé en France. Hein. Il n'y a pas un journal qui a fait la moindre allusion à ce document, parce que c'est un document qui dit d'une façon parfaitement claire, et je cite textuellement, qui parle de l'amertume qui est celle de nombreuses femmes catholiques qui, ayant épousé des musulmans, découvrent la réalité des mœurs et des habitudes, notamment quand elles regagnent, enfin quand elles vont vivre dans le pays de leur mari. Et le conseil qui est donné par ce document, c'est d'être de la plus extrême prudence quand il s'agit pour une catholique, pour une chrétienne, d'épouser un musulman. Ça, ce document-là, absolument personne n'en a parlé. Mais personne. Alors, la presse espagnole en a parlé, la presse allemande en a parlé, la presse anglaise en a parlé, la presse italienne, bien sûr, en a parlé, la presse française, pas un mot. Donc il y a une véritable censure qui s'exerce chaque fois que l'enseignement du Vatican sort du cadre politiquement correct obligatoire qui est celui qui régit les rapports entre les gens en France. Cette université d'été réunit qui
Alors, le principe, c'est qu'il y a tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde. Bon, le principe, c'est qu'il n'y a pas de critère d'âge. C'est-à-dire que nous essayons de rassembler toutes les générations. Bon, évidemment, notre objectif, c'est d'abord de nous adresser aux jeunes parce que c'est quand même eux qui ont le plus besoin de se former. Raison pour laquelle il y a des tarifs très adaptés, des bourses. Si vous voulez, il y a des choses très touchantes. Il y a un monsieur qui vient chaque année, qui cette année ne peut pas venir, et qui a envoyé une bourse assez conséquente pour pouvoir financer, au moins partiellement, l'inscription de jeunes qui ne pourraient pas venir pour des raisons financières. Donc il y a des phénomènes comme ça. Donc il y a des bourses qui ont été mises en place, et des tarifs très étudiés pour les jeunes, autour de 100-115 euros pour les 4 jours, tout compris, qui sont assez raisonnables, et encore une fois, avec des efforts qui sont faits.
L'hébergement y compris.
Oui, pour les jeunes, s'ils veulent coucher sur place, bon, évidemment, c'est pas le confort d'un hôtel 5 étoiles, mais c'est assez sympa et c'est très possible. Donc, il faut pas que la question d'argent puisse être un obstacle, et on étudie toutes les cas les uns après les autres pour permettre à tout le monde de s'inscrire. C'est aussi une université qui est pour les familles. Nous pensons que souvent les mères de famille pendant l'année sont prises par les tâches, les accompagnements d'enfants, les déjeuners, les dîners, etc. Et beaucoup de et que souvent elles s'intéressent beaucoup aux questions politiques, culturelles, historiques, mais qu'elles n'ont pas toujours le temps de lire. Alors beaucoup écoutent Radio Courtoisie, ce qui est un réconfort, je pense, pour elles. Mais nous pensons que là, c'est 4 jours où elles mettent les pieds sous la table. Elles n'ont pas de repas à préparer, leurs enfants sont pris en charge, il y a une garderie à partir de très jeunes enfants, hein, on prend en charge les enfants à partir de 2 ans, même jusqu'à 2 ans, il y a une garderie spécifique pour les moins de 2 ans, une garderie pour les 2 à 6 ans et une pour 6 à 12 ans, donc il y a 3 garderies pour pouvoir s'adapter à l'âge des enfants, les faire jouer de façon adaptée, etc., de telle sorte que les familles n'aient pas d'obstacle à venir, puissent venir, ne soient pas parce qu'ils sont ils ont des enfants avec eux, etc., ils ne puissent pas venir. Nous pensons que les gens qui sont des jeunes actifs, qui sont des jeunes ménages, etc., malgré tout, ont moins d'occasions de lire, de s'informer, de se cultiver, parce que la vie est ainsi faite qu'on a moins de temps que quand on est étudiant, et que là, c'est 4 jours dans une ambiance agréable, où il y a à la fois des visites culturelles, il y a des activités, il y a des veillées, il y a toutes sortes de choses qui sont... C'est pas seulement un cycle de conférences, mais enfin, il y a aussi un cycle de conférences, et que c'est une occasion de s'enrichir, de se former, de se prémunir contre la désinformation. Je crois que notre famille d'esprit a un peu tendance souvent à ronchonner contre la désinformation, mais à pas faire grand chose pour se former. Je pense que si on est formé, la désinformation devient presque un amusement. C'est-à-dire quand on entend la télévision ou la radio des énormités, ça devient un sport de les démasquer. Absolument. Et je pense que
c'est au moins aussi amusant que les mots croisés.
Voilà. Et je pense que même des jeunes gens peuvent être assez vite, moi j'ai l'exemple autour de moi, assez vite formés à ça et assez vite acquérir des réflexes qui leur permettent de débusquer la mauvaise foi, de débusquer l'erreur, etc. Alors nous essayons de leur donner cette formation. Je dirais que c'est à eux en priorité que ça s'adresse. Alors évidemment, quand on discute le piège de la laïcité, etc., c'est une chose qui peut paraître un petit peu austère, mais si on pense que c'est à la fois l'identité de notre pays, l'avenir du catholicisme en France, les problèmes posés par la présence musulmane, je crois que c'est des problèmes que personne aujourd'hui ne peut ignorer, qui intéressent notre avenir, mais d'abord le leur, parce que ils seront encore plus confrontés que nous, malheureusement, à ces questions, et il faut qu'ils aient les instruments conceptuels pour pouvoir y faire face. Et puis après, nous accueillons des gens de tous âges. Autant l'idée, si vous voulez, de Renaissance catholique est de recréer une ambiance familiale qui mélange les âges. C'est pas une université réservée à une classe d'âge, parce que nous pensons que c'est assez moderne cette idée que chaque classe d'âge doivent faire l'objet d'activités, doivent avoir des activités toujours spécifiques. Bien sûr, il y a des choses qui sont faites pour les jeunes, d'autres qui sont faites pour les vieux, etc., d'autres pour les moins jeunes, etc. Pense que le fait de donner l'occasion aux générations de se rencontrer est aussi une richesse. Ça a toujours été dans l'histoire des hommes une richesse que la rencontre des générations, et je pense que c'est un phénomène moderne et nocif que ce cloisonnement qui fait qu'un jeune n'a pas envie de rencontrer quelqu'un qui a 20 ans de plus que lui. Souvent, la rencontre est enrichissante.
Souvent, chaque fois, les universités d'été de Renaissance catholique, ça fait penser à ces très grandes réunions de famille, dans les grandes familles où on se retrouve, et par exemple, où les enfants s'amusent à faire des scénettes, parce qu'il y a toujours ça à la fin de l'université, on s'amuse beaucoup.
Il y a toutes sortes d'activités en marge des...
Un rallye qui est organisé pour les jeunes, mais pas uniquement pour les jeunes, tous ceux qui veulent. Et puis, tout à la fin, une espèce de petit spectacle qui est donné.
Grande veillée,
avec dont un des numéros les plus célèbres a été
une imitation
de Radio Courtoisie.
Une fausse émission.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas manquer.
Qui était assez réussi.
Qui sont les conférenciers, pour finir?
Alors, donc il y a un programme de conférences donc assez fourni, avec une conférence sur l'intégrisme laïque par le professeur Claude Rousseau, qui est professeur de philosophie, une conférence de Jean Madiran sur l'épiscopat français et la laïcité. L'abbé Bruno Schaeffer vient de nous parler de l'idéal de chrétienté dans l'histoire. Le professeur Franck Bousco, qui enseigne à l'Institut Saint-Pilis et à la Sorbonne, viendra parler des origines de la laïcité de Philippe le Bel à la Constitution civile du clergé. Jean Sévilla, qui a publié donc l'année dernière le Historiquement Correct, viendra parler de la persécution religieuse en France sous la Troisième République. André Framand viendra parler de la théocratie musulmane dans le Coran, viendra expliquer en quoi, comme vous le dites, le Coran et la laïcité, c'est une illusion de penser les conciliés. Philippe Conrad viendra parler des tentatives laïques au cours de l'histoire dans le monde musulman, particulièrement au XXe siècle. Arnaud Jaïr fera une conférence sur le temporel et le spirituel dans le magistère de l'Église. Avec le professeur Hugues Petit, lui, insistera sur l'enseignement du bienheureux Pie IX et de Saint Pie X. Et puis, évidemment, Serge de Becketch, qui est un des grands rendez-vous attendus annuels de l'Université d'été, viendra parler de la religion laïque. Voilà, donc tout un programme de conférences étalé sur 4 jours. Nous essayons de faire en sorte que les conférences soient consacrées surtout, pas toujours, mais surtout dans la matinée où les esprits sont frais, pour que on ait pas mal de temps libre l'après-midi pour des activités plus amusantes, plus ludiques, éventuellement des ateliers, oui, on essaye de mettre en place cette année des ateliers de formation.
Poterie, macramé.
Oui, disons des travaux pratiques sur des choses un petit peu plus tournées vers les combats qui sont les nôtres, mais enfin le principe est celui-là. Et puis Daniel Amich viendra nous parler de tout ce qui s'est passé autour de la Passion du Christ et de tout la grande manipulation qu'il y a eu autour du film de Mel Gibson.
Alors, avant de vous demander les informations pratiques, je voudrais vous donner lecture de deux messages qui montrent voilà ce que c'est l'ouverture de Radio Courtoisie. Ah mais attendez, après je vous donne la parole, Victor, mais cela, je me l'ai réservé parce que c'est une dame qui dit « Je remercie Monsieur de Gégère d'avoir fait la mise au point au sujet de la repentance du pape vis-à-vis de l'Inquisition face à Monsieur de Becketch, toujours prêt à critiquer les initiatives du souverain pontife. » Mais moi, mon pape préféré, c'est Jules II. Alors évidemment, Jean-Paul II, c'est pas tout à fait ma tasse de thé, mais je l'aime bien quand même, parce que, en plus, comme je suis un peu russe, les Polonais, j'ai tendance à me méfier. Enfin bon, c'est des vieilles histoires, tout ça. Et alors, le deuxième message, c'est à Monsieur de Gégère, à essayer en permanence de faire le grand écart entre deux religions inconciliables, la religion catholique et l'hérésie de Jean-Paul II, vous allez vous donner des crampes. Voilà, alors vous voyez que hein, on a d'une part c'est difficile de faire plaisir à tout le monde quand même. Voilà. Michel de Gers, est-ce que vous voulez nous donner après vous poserez vos questions, mais incroyable.
Des questions, c'est des commentaires.
Ben, je voulais
avec les vôtres.
Ah ben on y reviendra, mais je voudrais que d'abord parce qu'on va oublier après les questions. Alors, techniques.
Les questions techniques.
Donc rappelez les dates, le lieu.
Dimanche 11 juillet au mercredi 14 juillet inclus, donc 4 jours pendant, en gros, le week-end du 14 juillet. Ça se passe à Villepreux, c'est à 20 km à l'ouest de Paris, c'est tout à côté de Versailles, dans un très beau domaine, un très bel endroit, très agréable, très champêtre, vraiment très beau. Il y a alors toutes sortes de forfaits d'inscription. Alors là, il faut à peu près être polytechnicien pour s'y retrouver, et ça n'est pas mon cas. C'est-à-dire, il y a quatre
forfaits. C'est comme les forfaits de téléphone portable.
Voilà, il faut demander par téléphone. Disons qu'il y a des prix qui vont en gros de 100 à 157 euros, suivant si on est étudiant, pas étudiant, si on est adhérent de Renaissance catholique, si on n'est pas adhérent de Renaissance catholique, si on veut être hébergé, si on l'est pas. Bon, il faut dire aussi que le fait d'être en région parisienne présente un grand avantage, c'est qu'un certain nombre de familles de province peuvent être hébergées par des familles de Paris. Il y a des arrangements, on n'est pas forcé d'aller à l'hôtel. Donc il y a aussi moyen de s'inscrire en allant à l'hôtel. Alors évidemment, la formule où on est hébergé à l'hôtel est plus chère que la formule où on va coucher chez soi, etc. Donc il y a toutes sortes de formules, je dirais, entre 100 et 168 euros, qui est le prix maximum, où là, je pense, on est dans un hôtel 6 étoiles, avec le petit déjeuner,
la limousine qui va vous chercher le matin,
au lit. Et il y a donc une garderie vraiment très très bien faite. Ça, on a fait un très gros effort parce que justement on souhaite avoir les familles, on pense que spécialement les mères de famille ont droit à ces 4 jours d'amitié, de repos, de formation, et que c'est pour eux, ça sera les, pour quelques-unes, celles sont leurs seules vraies vacances, parce qu'après elles vont tenir des maisons, et bon, c'est à la campagne ou au bord de la mer, mais pas forcément pour elles des vacances. Donc on insiste beaucoup sur cette garderie pour que les mères de famille puissent venir, et que bah, du coup elles peuvent venir avec leur mari aussi, et puis si elles viennent avec leurs enfants, c'est parfait. Il y a des offres spéciales pour les jeunes, alors c'est assez large, de 16 à 30 ans. Il y a plusieurs possibilités d'hébergement, des possibilités d'hébergement sur place qui permettent donc d'avoir des prix très peu chers. Le meilleur prix étant 100 euros, mais encore une fois, il y a en plus des bourses possibles. Et pour les jeunes de 16 à 22 ans dont les deux parents sont inscrits, il y a 50% de réduction pour chaque enfant. Donc c'est pour que là aussi, les familles qui ont des grands-enfants puissent venir avec leurs grands-enfants. Alors tout ça est un peu compliqué, donc un petit peu confus. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Alors je vais vous donner quand même un numéro de téléphone pour donner, avoir des renseignements sérieux auprès de gens compétents. Alors donc, les renseignements, c'est la Renaissance catholique 89 rue Pierre Brossolette 92-130 Issy-les-Moulineaux. Hein, 89 rue Pierre Brossolette 92-130 Issy-les-Moulineaux. Le téléphone est le 01 46 62 97 04. Je répète, 01 46 62 97 04. Et le fax 01 46 62 95 19. On peut aussi envoyer un mail à R catholique, tout attaché, R catholique, R, la lettre R, puis catholique comme catholique, @wanadoo.fr. Voilà. Et donc, Villepreux est un lieu qui est accessible depuis Paris en un quart d'heure, aux heures où on commence l'université d'été ou aux heures où elle finit. C'est accessible donc en voiture depuis la porte Saint-Cloud, en train depuis Saint-Lazare en allant à la gare de Saint-Nom-la-Bretèche où il y a un service de navette qui est organisé pour permettre aux gens de venir, ou par Montparnasse, il y a un train qui va à la gare de Villepreux. Et donc, il y a des navettes qui sont organisées le matin, le soir, etc. Donc, toutes les conditions matérielles ne sont pas des obstacles. Le seul obstacle, c'est la paresse que vous avez à vous former, c'est le fait de ne pas vouloir sacrifier 4 jours de vacances en disant moi je ne peux pas parce que je travaille, ou moi je ne peux pas parce que je suis en vacances. Eh bien, si vous n'êtes pas formé, vous ne serez pas en état de résister à ce qui nous arrive, et si vous n'êtes pas en état de résister à ce qui nous arrive, il sera inutile de vous plaindre. Voilà.
Il faudra collaborer, c'est ça, quand on n'est pas, quand on n'est pas les moyens de résister, on est bien obligé de collaborer.
À quelle heure on peut vous téléphoner, parce qu'il paraît qu'on n'arrive jamais à vous joindre?
Alors, bon, mais alors, non, je précise une chose, c'est que de toute façon, ces informations seront également publiées dans le libre journal de la France Constoise, dont je m'honore d'être sous les ordres de Madame la directrice Danielle de Becquet, le rédacteur en chef. Et donc, vous pouvez aussi commander le libre journal où vous trouverez.
Alors, on trouvera également le libre journal, évidemment, à l'université d'été, où l'on pourra s'abonner. On trouvera la librairie de Chiré-en-Montreuil, où on pourra acheter de bons livres. Tout est fait pour essayer de faire en sorte que cette université ne soit pas une fin en soi, soit un début, soit un départ, soit une façon de se former pour militer, pour combattre, pour faire en sorte que les choses changent, car nous pensons que les choses ne vont pas bien et qu'il faut retrousser nos manches.
Et pour téléphoner à Renaissance catholique, moi je ne comprends pas qu'il y ait des difficultés, parce que chaque fois que j'appelle, je tombe sur Agnès qui est
alors,
efficace,
aussi,
rapide, aimable.
Moi aussi, je vous avoue que je n'y suis pas toute la journée, c'est pas mon métier, mais que chaque fois que je téléphone, disons entre 9h du matin et 7h le soir, je suis toujours tombé.
Ce qu'il faut, c'est faire le bon numéro.
Voilà.
Oui,
c'est faire le bon numéro, alors je vais
le
rappeler.
Le 01-46-02.
Non, pas du tout, pas du tout.
Oh, c'est ce que vous venez de me dire.
Non. 01-46-62-97-04.
C'est moi qui ai mal écrit.
Alors, voilà.
46,
alors c'est l'explication, ce monsieur avait le 02.
Voilà. C'est parce que j'ai mal écrit que ce monsieur n'arrive pas à vous joindre. Je vous donne la parole tout de suite. Un message à monsieur Patrice qui m'envoie un fax. Vous avez tout compris, Patrice. J'en dis pas plus. Il comprendra ce qu'il a compris. Mais c'est exactement ça. Il a très très bien. Il est pertinent, il est pertinace, plein de pertinacité. C'est comme ça qu'on dit.
Oui, ça va.
Voilà. Allez à vous, Victoria.
Alors, un auditeur. L'actuel pape prône l'ouverture à l'autre. Le métissage, l'immigration, le mélange des religions qui sont toutes bonnes, le droit de l'homme, etc.
La mère aussi.
Vous dites le contraire. Conclusion, ou vous n'êtes pas catholique, ou Jean-Paul II n'est pas catholique.
Ah, c'est pas une question, c'est une opinion, ça.
Non, mais je vous dis, sur Europe 1, j'ai entendu dire que le pape demandait aux catholiques de faire repentance pour les mauvais traitements infligés aux juifs et aux musulmans durant la Reconquista.
C'est les Espagnols, là.
Le pape, attendez, je lis tout, vous direz après, vous commenterez après.
Ah bon,
le pape va-t-il aller jusqu'à se repentir de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ ? Si Dieu est bien créateur et maître absolu de toutes choses, je ne vois pas comment on peut séparer Dieu de César. Dieu doit intervenir dans tous les domaines.
Alors, je voudrais répondre, moi, c'est pas une question, un point de vue personnel. Il se trouve que c'est le Christ qui l'a dit et qui devait avoir quelques lumières sur la question, et l'Église qui l'enseigne. Mais elle n'enseigne pas qu'ils doivent être séparés, elle enseigne qu'ils doivent être distingués. Distingués, ça veut dire que c'est pas les mêmes autorités qui traitent des questions de l'Église et de l'État. Ça veut dire que le pape n'est pas roi du monde, mais ça ne veut pas dire que les différents chefs d'État ne doivent pas tenir compte de ce que dit l'Église quand le temporel traite de questions qui touchent au spirituel. Je prends un exemple simple. Quand l'État s'occupe de l'avortement, eh bien, c'est un domaine qui touche au spirituel. Donc, il doit écouter l'Église. Quand l'État traite des transports en commun, je pense que c'est un domaine où, a priori, l'archevêque de Paris n'a pas une compétence pour savoir s'il faut faire le tramway sur les boulevards périphériques. Voilà. C'est aussi simple que ça, la distinction du temporel et du spirituel.
Ça tient en deux phrases des évangiles. La première phrase, c'est « Rendez à César ce qui est à César ». Et la deuxième phrase, c'est celle que le Christ dit à Pilate. Quand il comparait devant lui, il dit « Si tu ne tenais pas ce pouvoir de plus haut que moi, tu ne pourrais rien faire contre moi. » Et donc, ça veut dire que même le pouvoir de Pilate procède de la volonté de Dieu.
Tout ça a été très bien expliqué par saint Thomas d'Aquin, et tout ça sera l'objet d'une conférence. Donc j'invite ces auditeurs qui se posent des questions. Il y a justement une conférence d'Arnaud Jaïr qui s'appelle Temporel et spirituel dans le magistère de l'Église. Alors je crois qu'ils ne peuvent pas faire mieux que de venir l'écouter, et puis ils pourront ensuite poser des questions, car toutes nos conférences sont suivies de débats où les auditeurs peuvent poser des questions et les orateurs y répondent.
Alors un autre auditeur, vous prétendez que la religion relève de la sphère privée, je pense que c'est faux. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en France, il y a toujours des églises, des cathédrales, on se rend dans ces lieux publics pour prier, donc ça ne relève pas seulement de l'intime.
Mais je n'ai jamais dit que la religion relevait de la sphère privée. J'ai dit que l'idéal de la laïcité était de cantonner la religion à la sphère privée, mais je ne partage pas cet idéal. C'est pas parce qu'on décrit la couleur d'un mur qu'on est habillé de cette couleur.
Un auditeur, assimilé les immigrés musulmans, vous plaisantez, ils sont inassimilables. Renvoyez-les tous. Un autre auditeur.
Ne vous gênez surtout pas.
Facile à dire. Un auditeur, la République laïque ne convertira jamais l'islam à la laïcité, surtout lorsqu'on est à deux droits de légaliser le mariage homosexuel, etc. Une auditrice vous dit qu'un maillot deux pièces n'est pas immoral. Alto vieux ronchon. Et par ailleurs,
j'avais parlé de l'immoralité des maillots de pièces. Je dis que je ne pensais pas que la France soit menacée par le fait que les jeunes musulmanes refusent de porter le maillot de pièces. Moi, si elles veulent se baigner en maillot de 1900, personnellement, ça ne me dérange pas.
Possible avec des pierres dans les poches.
Je trouve extraordinaire simplement que dans ce pays où tout est permis et où les maillots de pièces sont considérés, et maintenant c'est les filles qui sont en maillot de pièces, c'est vraiment très années 60, c'est les grands-mères, voilà. Bon, je trouve que dans ce pays où tout est permis, le fait que tout le monde pousse des cris scandalisés simplement parce que les musulmanes sont contre la mixité à la piscine et les maillots indécents, je trouve ça grotesque, je trouve ça extraordinaire que la seule réponse que nous ayons à donner à l'islam, c'est l'immoralité de notre société. Ça veut pas dire que le maillot de pièces est immoral en soi. J'ai des filles qui portent de temps en temps des maillots de pièces.
À la plage, en tout cas.
Oui, voilà, à la plage, mais pas à la maison. Voilà.
J'ai discuté avec plusieurs maghrébins. Ils m'ont affirmé les deux choses suivantes. Votre pays est foutu. Entre la gay pride, les avortements et l'achat de chiens à la place d'avoir des enfants, nous n'avons plus qu'à attendre.
Alors je voudrais simplement répondre à ce monsieur que nous avons consacré il y a 3 ans une université d'été au thème « Le 21e siècle sera-t-il musulman ?» Oui, on ne sait pas comment ça soit obsessionnel chez nous, mais enfin, il se trouve que ça fait partie quand même des problèmes de l'heure. Et les actes de cette université, c'est-à-dire le livre qui reprend les conférences et les réponses, les débats qui ont suivi ces conférences, c'est un livre d'environ 300 pages, va paraître à l'occasion de la prochaine université d'été, donc début juillet, et il trouvera dedans, je pense, beaucoup de conférences et beaucoup de propos qui vont dans son sens et éclaireront sa réflexion, enfin en tout cas je l'espère. Donc c'est un livre qui sera disponible à Renaissance Catholique, s'appelle « Le 21e siècle sera-t-il musulman ?» et qui sera en vente à partir du 10 juillet au prix de 20 euros.
Jamais sans ma fille est un bon exemple de la relation entre hommes et femmes dans les pays musulmans. Avez-vous lu ce livre ?
Non, je n'ai pas lu Jamais sans ma fille.
Un auditeur. Est-ce que les désordres résultant de l'avortement et de l'euthanasie, plus ou moins masqués, des pacs, des mariages homo, etc., sont plus graves ou moins graves que les désordres résultant de la présence de communautés islamiques ou musulmanes ?
Ben, l'ennui, c'est d'avoir les deux à la fois.
Il y a qu'une petite différence quand même. Moi, je suis pas d'accord quand je vois des dames avec les seins nus sur les plages, encore que si elles sont jolies, ça me gêne pas trop. Enfin, je suis pas d'accord non plus pour qu'en ce moment toutes les jeunes filles montent leur nombril là, entre le jean et puis le maillot. Mais à la limite, ça se passe chez moi. Les autres, ça les regarde pas. Et moi, tout ce qui se passe à Marrakech, je m'en fous. Bon, alors, ils sont là, très bien, mais ils n'ont pas de jugement à porter. Si on a envie d'acheter des chiens plutôt que de faire des enfants, c'est déplorable. C'est à nous de le déplorer, mais c'est pas à eux de nous le dire.
Oui, mais pour répondre à ce que disait cette dernière, qu'est-ce qui est le plus grave? Le plus grave, c'est la présence de l'islam. Les gay pride, tout ça, ça n'aura qu'un temps. On en viendra à bout un jour ou l'autre. Mais l'islam, non.
Plutôt un auditeur...
Il y aura le char de la mosquée de Paris. Hein,
plutôt que de chercher les causes du déclin dans la laïcité, pourriez-vous revenir quelques instants à Démosthène, qui explique comment la démocratie en Grèce divisa tant et si bien les Grecs entre eux que l'ennemi Philippe le père d'Alexandre n'eut même pas à faire la guerre pour se saisir d'une nation défaite. Le mal provient de nos institutions, beaucoup plus que de nos gouvernants.
Vive le roi.
Un auditeur. En réponse à un auditeur, je soupçonne Serge de Becquetch de ne pas être favorable au pape, puisque Serge de Becquetch a été franc-maçon.
Non, c'est pas vrai.
Oh.
Non, sans doute.
Et un autre auditeur dit, mais je suis persuadé que Serge de Becquetch est agnostique.
Ah non, pardon. Alors là, il faut vous mettre d'accord. Ah non.
Non.
Jusqu'à présent, je suis gnostique. On ne peut pas être gnostique et agnostique. Il faut choisir quand même. Alors écoutez, je veux bien tout ce qu'on veut, mais là, il y a des limites quand même, non? Non. Franc-maçon, agnostique, gnostique, adorateur de l'oignon.
Tout ça, c'est compliqué. Oui, c'est une chose pratique. Oui. Y aura-t-il des conférences de messieurs De Gégère et Maugendre?
Oui, alors Jean-Pierre Maugendre tirera la conclusion de l'université, comme chaque année.
Et vous ferez la présentation?
Moi, je ferai peut-être une courte présentation, mais surtout, en fait, je pensais faire quelque chose avec Daniel Amiche autour de la Passion du Christ. Ouais.
Et enfin, une auditrice dit « Redonnez votre numéro de téléphone, Serge de Becquetch a couvert votre voix quand vous parliez. »
C'est un complot contre moi.
Je vous redis le numéro de téléphone. Le téléphone, c'est 01 46 62 97 04.
Merci beaucoup, Michel Joulibert, parce que je crois que vous avez des obligations familiales. Donc, je vous rends la liberté que je ne vous ai d'ailleurs pas volée. Et nous nous reverrons à l'université d'été.
Eh bien, merci infiniment.
On va, après la santé de l'âme, on va s'occuper de la santé du corps en la compagnie du docteur Popovski, qui est pédiatre et homéopathe. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, l'homéopathie, si ça ne fait pas bien, ça peut pour faire de mal. Et par conséquent, on ne risque pas de faire du mal aux enfants avec. Mais moi, je suis partisan de l'homéopathie, mais je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie et même de directeurs d'émissions sur Radio Courtoisie qui ne sont pas de mon avis. ce qui n'étonnera personne. Ce livre s'appelle « Élever et soigner son enfant autrement, de la conception à l'adolescence », et c'est ce qui en fait, c'est une des choses qui en font l'intérêt, c'est que vous commencez non pas simplement à la naissance de l'enfant, mais bien avant. Le premier chapitre est significatif du contenu puisque il s'intitule Devenir parent. Donc, c'est-à-dire que selon vous, la santé de l'enfant, elle est déjà en jeu à partir du moment où les parents se rencontrent.
Tout à fait. La santé de l'enfant commence avec le projet parental. Et le projet parental commence très tôt. On connaît des petites filles, moi j'en vois tous les jours parce que je suis pédiatre, qui disent plus tard, quand je serai grande, j'aurai des enfants, j'aurai des filles, j'aurai des garçons. On voit bien que le projet se forge très tôt.
Alors vous dites des petites filles, ça c'est une parenthèse, mais vous dites des petites filles, mais vous soignez aussi des petits garçons. Est-ce que vous constatez le même, vous entendez les mêmes propos dans la bouche des garçons?
Pas tout à fait, il faut les interpréter en quelque sorte. Mais l'enfant, jusqu'à 6 ans, il a un langage qui est éminemment symbolique. Donc l'interprétation de ce que l'enfant émet comme message est quelque chose d'assez courant pour un pédiatre. Ça me choque pas d'avoir en permanence créer une sorte de langage métaphorique qui permet d'interpréter ce que l'enfant nous dit. Je vous prends un exemple. Une tique de crèche 15 jours après que maman ait mis le bébé et se soit séparée de lui. C'est une otite, ça mérite d'être soigné comme une maladie aiguë avec les moyens modernes, mais en même temps, il faut essayer de restituer le sens, et l'otite est peut-être liée à une détresse, une angoisse, une peur d'abandon de la part de l'enfant. Donc il y a otite, ça c'est sûr, il y a la maladie concrète, mais il y a aussi le sens qu'on lui donne. Et là, donc, le langage métaphorique ou symbolique dont je parlais est un langage que le pédiatre utilise tous les jours, surtout chez l'enfant en bas âge.
C'est-à-dire que vous pensez que, parce que j'interprète ce que vous dites de façon suivante, l'état d'un tout petit enfant, l'état physique, le terrain du petit enfant peut être modifié par des sentiments personnels, par des angoisses, par des peurs, par des déceptions, par des désagréments qu'on ne voit pas. Oui. Et cette situation crée donc un état de faiblesse du terrain. Oui. Qui le rend plus réceptif à certaines affections.
Absolument.
Vous parlez par exemple de l'otite du nouveau-né,
du nourrisson.
Du nourrisson. Mmh. Et c'est un phénomène que qu'on peut attribuer pas seulement à un stimulus extérieur, mais aussi au fait que l'enfant est en état de détresse, qui manifeste une faiblesse face à l'agression.
Tout à fait, c'est le terrain. Si vous voulez, il faut un papa et une maman pour faire un bébé, donc pour qu'un phénomène apparaisse, il faut d'une part un stimulus extérieur qui va agir par exemple comme facteur masculin déclenchant, mais il faut aussi une réceptivité, un terrain, c'est-à-dire un élément féminin en quelque sorte qui va recevoir cette agression. Et le phénomène, il est en fait aux confins de deux éléments. Un stimulus extérieur, ici pour le titre que je viens de prendre comme exemple, ce sera le microbe, et un terrain qui est plus ou moins réceptif au microbe. Donc c'est pour ça que le livre s'appelle Autrement, élever et soigner son enfant autrement. Nous, pédiatres ou médecins généralistes modernes, homéopathes ou acupuncteurs, enfin pratiquant les médecines alternatives, nous sommes des médecins formés par la faculté de médecine d'une manière tout à fait conventionnelle et habituelle, mais dans le autrement, nous voulions mettre justement ce message qui signifie que grâce à nos techniques, nous pouvons élargir le propos. Et en traitant le terrain, c'est-à-dire en traitant la réceptivité, eh bien, nous sommes à même de démontrer que nous n'avons pas forcément besoin ensuite de développer des moyens lourds, par exemple des antibiotiques pour traiter une otite. Si nous avons traité le terrain et sa détresse en amont, l'otite ne surviendra pas et nous aurons fait faire des économies à la sécurité sociale.
Ça fait penser à ce que disent de nombreux médecins à propos du cancer. Et on a en permanence des centaines de cancers en nous. Et les facteurs déclenchants du cancer, c'est des stress, ce sont des agressions extérieures, ou c'est ou l'existence d'un terrain favorable, c'est-à-dire d'un terrain qui manque d'acidité.
Ou la génétique. Mais un des facteurs déclenchants principaux, enfin parmi les facteurs principaux de flambée de cancer, vous avez la détresse morale, par exemple la perte d'être cher, etc.
Oui, on voit d'ailleurs que très souvent, quand on cherche l'étiologie d'un cancer, on s'aperçoit que très souvent, ça intervient quelques mois après une perte d'emploi, un deuil, un accident, un problème judiciaire, un problème d'héritage. Quand il y a un stress très très violent, il peut être suivi d'un cancer. Alors, donc, ce que vous dites à propos de la réceptivité de certains enfants à certaines maladies, c'est connu également dans le domaine de la médecine pour les adultes.
Absolument.
Et un autre aspect qui est très intéressant dans votre livre, alors là, que je, c'est la première fois que je trouve ce genre de choses, c'est des portraits d'enfants, ou plus exactement des types d'enfants, que vous décrivez. Alors c'est amusant à lire, mais en fonction en quelque sorte du remède homéopathique qui va compenser qui va apporter à l'enfant ce dont il a besoin. Alors par exemple vous dites l'acquiescis mutus, et vous faites un portrait de ce que vous appelez l'enfant l'acquiescis mutus, qui est en fait un enfant que le produit l'acquiescis mutus peut aider à affronter les problèmes qu'il connaît après sa naissance. Alors l'acquiescis est un grand remède de l'enfance. Il caractérise ces enfants qui ont une peur intense d'être abandonnés par leur mère. Entrée à l'école, naissance d'un autre enfant sont source de troubles tant psychiques que physiques. L'acquiescis est classiquement donné dans les circonstances cyclothymiques. Le petit l'acquiescis est susceptible tout en recherchant l'affection de ses proches. Il a toujours chaud, il a horreur des écharpes et de tout ce qui serre le cou. Il est difficile à endormir le soir, il part sans cesse et s'active et se réveille le matin de méchante humeur et muet. Otite et angine commencent chez lui à gauche, il ne faut jamais arrêter un écoulement. Alors c'est très amusant parce que quand on lit les portraits d'enfants, on a l'impression de lire, de retrouver des personnages de petit Nicolas de Sempé et Goscinny. Avec le gosse là, l'acquiescis mutus, c'est un enfant de cette série qui s'appelait, j'ai oublié son prénom, qui avait un prénom très très rare, un peu de famille. Oui, c'est ce genre là. Et on a tous eu des copains qui étaient comme ça, qui étaient toujours avec une écharpe, qui avaient le nez qui coulait, qui étaient ronchons, qui pleurnichaient, etc. Ou alors, vous parlez de l'enfant Abrotanum et vous dites le bébé Abrotanum présente souvent une sténose du pylore, et qui, source de troubles digestifs, véritables petits vampires, ils sont accrochés à leur mère, plus grands ils ne savent pas jouer seuls et épuisent leur famille par des demandes incessantes, les petites filles peuvent souffrir d'un épanchement de sérosité, Abrotanum est souvent maigre, né ainsi il le restera, il saigne facilement, il souffre souvent de diarrhée qui le met à plat, le remède convient aux enfants qui ont tendance à faire une maladie plus profonde lorsqu'on en supprime une plus superficielle. Et là c'est pareil, c'est à chaque fois on a l'impression qu'on connaît des exemples de ça. Oui. C'est comment avez-vous pu établir cette espèce de fichier en quelque sorte des enfants?
Alors ce fichier a un nom en homéopathie, il s'appelle matière médicale. Et ce qui vous étonne agréablement, j'espère, à la lecture de ces portraits, émane de la loi essentielle qui sous-tend la pratique de l'homéopathie, qu'on appelle la loi de similitude. C'est-à-dire, donc, si je peux dire ça d'une manière assez simple, toute substance ingérée par l'homme peut être pathogène. Vous prenez de l'arsenic, vous allez perdre vos cheveux, vous allez avoir la diarrhée, vous allez, etc. Donc, toute substance est capable de déclencher chez les humains un certain nombre de symptômes. Mais ce qu'on remarque, c'est que tout le monde n'a pas la même réceptivité à un toxique. Et les personnes qui vont être particulièrement sensibles à l'action d'un toxique vont être ces personnes-là qui vont répondre le mieux à ce toxique étant transformé comme un médicament. Donc pour résumer, si je prends de l'arsenic, je vais m'intoxiquer, et si je suis très sensible à l'arsenic, des très faibles doses d'arsenic peuvent me rendre malade, alors que mon voisin, vous, je pourrais vous donner les mêmes doses d'arsenic, ça ne vous fera rien. Si je rencontre dans la nature des patients du type arsenicum,
Monsieur Bénard, par exemple, j'étais trop résistant.
Des gens qui ont la même sensibilité que ceux qui ont développé le plus de symptômes à l'arsenic.
Ah, oui.
Vous voyez, si je rencontre ces gens-là, eh bien si je leur donne l'arsenic non plus à dose toxique, mais à dose infinitésimale, ce sont ces gens-là que je vais réussir à guérir avec l'arsenic. Donc nous, médecins, nous faisons un double diagnostic. Nous faisons, médecins homéopathes, nous faisons d'abord un diagnostic de maladie, comme tout médecin, c'est-à-dire un diagnostic nosologique. A-t-il une otite, un cancer, une angine, une dépression? Mais ce diagnostic de maladie se double d'un diagnostic de terrain, c'est-à-dire qu'au-delà de ce que le malade a, on va essayer de savoir ce que le malade est. C'est-à-dire quelle est sa personnalité psychobiologique, parce que dans ce qu'il est, vous avez lu deux portraits. Vous avez vu qu'il y a à la fois des symptômes psychiques et en même temps des tendances physiques, tendance à saigner du nez, tendance à prendre froid, etc. Voilà ce qu'on appelle un portrait homéopathique. C'est pour ça qu'il y en a une soixantaine dans ce livre. Et ils émanent en fait de la loi principale. Parce que si on utilise l'homéopathie sans tenir compte de ce dont je viens de parler, ça ne marche pas. Et la plupart des déçus de l'homéopathie le sont non pas à cause d'une mauvaise homéopathie, mais d'un mauvais homéopathe. C'est-à-dire moi-même, quand je ne trouve pas, j'estime être un mauvais homéopathe jusqu'à ce que je trouve enfin, voyez-vous.
C'est-à-dire que l'homéopathie, c'est pas un traitement, c'est un traitement du sujet, c'est pas un traitement de la maladie.
Absolument, pas de l'objet, mais du sujet. L'objet étant la maladie,
c'est le
sujet qui porte l'objet, et nous visons le sujet pour qu'il se débarrasse lui-même de l'objet qui est la maladie.
Alors, une des questions qui se pose, bon, on va parler de l'homéopathie pendant deux minutes, si vous voulez, une des questions qui se pose, et qu'on pose, moi, que j'entends 100 fois par an, c'est, mais comment pouvez-vous prendre au sérieux l'homéopathie? Puisqu'il y a des dilutions infinitésimales, le produit actif a totalement disparu. Et donc, c'est pas sérieux de croire qu'il peut avoir encore un effet. Il y a quelques années maintenant, il y a eu le fameux débat sur la mémoire de l'eau qui a été retourné et ridiculisé très rapidement, je pense, par une espèce de campagne qui était certainement pas totalement désintéressée. Comment vous expliquez-vous, d'abord est-ce que vous avez une explication, comment vous-même avez-vous été convaincu de l'efficacité d'un remède homéopathique à dilution de 1 pour 10 000 ou 1 pour 1 million ou 10 millions ou 100 millions?
Alors il y a plusieurs étages à la réponse. Le premier étage, pour être honnête, c'est l'étage pragmatique, pratique. En fait, nous n'avons pas d'éléments qui nous permettent de démontrer l'activité de l'homéopathie autrement qu'en guérissant des malades. Donc c'est à force d'en voir tous les jours depuis près de 30 ans et à force de prescrire selon les règles dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire dans le respect d'un certain nombre de règles et de lois, que je vois régulièrement, et mes patients en témoignent tous les jours. Alors là je sors de ma consultation, là il y a 2 heures, j'ai encore vu 5-6 malades que j'avais vus il y a quelques mois, qui allaient très bien, dont les parents étaient ravis. Donc ça c'est quand même la base. L'honnêteté me dit que je dois répondre comme cela, c'est-à-dire le réel, le concret est la première réponse. Mais sinon, je ne suis pas né homéopathe. Moi, je suis un médecin hospitalier.
Comment êtes-vous devenu homéopathe? Voilà.
Donc, venant du monde de l'hôpital où j'ai appris à soigner des maladies lourdes, graves, avec des outils extrêmement puissants, me retrouvant en médecine libérale, j'ai fait un peu mon examen de conscience, en quelque sorte, et me suis rendu compte que les outils que j'avais à ma disposition pour soigner les malades de ville, dans le monde libéral, n'étaient pas tout à fait adaptés à la pathologie que je voyais tous les jours. Autant ils l'étaient pour les maladies type méningite, détresse grave à l'hôpital, autant pour soigner des rhinopharyngites, des pipiolis, des cacaculottes et des eczémas, c'était pas adapté. Donc j'avais quoi, une vingtaine de médicaments, il y avait de la cortisone, quelques antibiotiques, l'aspirine, l'oliprane, etc. Donc peut-être par honnêteté.
Oui, parce que là, il faut quand même rappeler que vous êtes pédiatre. Donc
voilà.
C'est vraiment un aspect très particulier
Il n'y a pas d'effet placebo. On peut nous dire qu'il y en a un, puisqu'il y en a un, paraît-il, même chez l'animal. C'est vrai qu'on peut toujours trouver, mais l'enfant n'est pas demandeur de soins, même. La plupart du temps, il hurle quand on nous l'amène. Il faut l'amener par les cheveux. Il n'est pas d'accord en général.
Il faut le battre un peu.
Ça, les parents s'en chargent, j'espère. Mais en tout cas, pas sur mon conseil. Je leur dis plutôt le contraire. Mais néanmoins, l'enfant n'étant pas demandeur de soins, je ne suis pas certain qu'il y ait un véritable effet placebo. Mais donc, comment suis-je devenu homéopathe? Eh bien, en essayant. Lorsque j'ai fait le constat que je n'avais pas d'outils adaptés à la pathologie de ville ambulatoire, j'ai cherché d'autres techniques. Donc j'ai pratiqué l'homéopathie, l'acupuncture, les plantes, la phyto, etc. Et j'ai fini par me fixer sur une technique. J'ai passé le diplôme. Il faut 3 ans de formation, passer le diplôme. Et j'ai agrégé cette technique, l'homéopathie, à ma pratique au quotidien. Donc ça n'a rien retiré à mes qualités de pédiatre bien formé. Sauf dans la tête de mes confrères, parce qu'à partir du moment où vous devenez homéopathe, vous êtes taxé de tout un tas de choses.
Vous avez choisi de devenir un paria, là.
Absolument. Et donc, c'est pas grave, parce que c'est pour le bienfait de mes patients, et en fait, mon salaire, ma récompense, je l'ai en face de moi tous les jours, donc ça me suffit très largement. Pour être honnête, pas tant que ça, puisque sinon j'écrirais pas. Je pense que ça me suffit pas, étant donné que maintenant que je sais que cet outil permet de libérer l'homme, le petit homme, des maladies, c'est-à-dire des entraves que représente la maladie, c'est une perte de liberté. C'est une perte d'autonomie, la maladie. Donc on libère les gens en les guérissant. Et bien maintenant, j'estime que mon rôle moral, c'est d'essayer de faire connaître cette technique. Comme moi-même, j'y suis arrivé d'une manière, on va dire, éthique, eh bien peut-être que pour d'autres ça sera plus facile s'ils entendent des gens honnêtes parler de cette technique et s'ils se l'approprient honnêtement. Je pense que l'homéopathie a encore de beaux jours devant elle et c'est pas une thérapeutique régressive mais au contraire moderne, post-moderne, voire même post-moderne.
Il y a une dimension rare dans votre livre, justement, puisque vous évoquez ça, c'est que on sent que vous avez à tout moment une préoccupation morale. C'est-à-dire que vous avez un sens extrêmement poussé de la responsabilité du médecin en face de son patient et de la première chose, c'est primum non nocere, hein, c'est ça le principe des médecins, ne pas nuire.
En premier, ne pas nuire.
Et on le voit, mais à des petits détails, par exemple, quand vous expliquez dans le chapitre « Devenir parent », enfin avant bébé, il y a devenir parent avant la grossesse, quand concevoir est difficile, et vous avez deux chapitres à propos de la pilule, trois sous-chapitres à propos de la pilule où vous expliquez bien que avant de penser à concevoir il est nécessaire de drainer le corps, de nettoyer le corps des effets en tout cas résiduels de la pilule, et ensuite qu'il faut même nettoyer le mental. Vous avez un sous-chapitre qui est intitulé nettoyer le mental. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par là, parce que vous pensez que le fait pour une femme de prendre la pilule a des conséquences psychologiques qui sont pas propices à une
c'est pas cela, c'est que une des premières toxines de l'organisme c'est le dérèglement de la pensée. C'est-à-dire que apprendre à penser juste, à penser vrai, c'est extrêmement difficile parce que on ne naît pas tout neuf, on n'est pas vierge, on n'est pas une cassette vierge, on est dans un milieu, un bain socioculturel et donc sous l'influence de différentes pressions extérieures, parentales d'abord, puisque après tout la famille n'est jamais que le représentant légal de la pression sociale, en tout cas des normes sociales. Donc les parents s'approprient les normes sociales et élèvent leurs enfants en fonction de ces normes. Mais dans la croissance d'un enfant, il peut y avoir un certain nombre de dérèglements. Vous n'êtes pas sans ignorer que les enfants passent par plusieurs stades, oral, anal, oedipien, et ensuite il devient un adulte. Eh bien, les adultes, très souvent, ramènent à l'âge adulte de quelques petites névroses qui viennent de petits bugs de développement dans leur petite enfance.
C'est naturel, c'est normal, c'est ça qu'on appelle l'éducation.
Absolument, c'est ce qu'on considère comme normal. Donc, nous, homéopathes, nous pensons qu'il y a une manière harmonieuse de fonctionner, la tête, le cœur et le corps en même temps, ensemble, c'est ce qu'on appelle penser juste, sentir juste et ressentir juste. Donc on sait qu'on peut y arriver. Bien sûr, l'homéopathie ne va pas le faire le travail tout seul, surtout chez un adulte. C'est pour ça que le drainage, ça a été récupéré avant la dernière guerre par différents mouvements de médecins. Il y avait l'eugénisme, par exemple. Il y avait différents mouvements de cet ordre-là qui tendaient à faire le beau bébé tout blond, parfait, c'est-à-dire sans aucune, rien qui dépasse, sans aucune aspérité. Ça a beaucoup changé. Il y a énormément d'homéopathes comme moi qui utilisent l'homéopathie de manière éthique, mais au-delà de toute idéologie. Le but étant, en fait, in fine, de guérir le patient. Et c'est ce que Hahnemann nous recommandait, d'ailleurs, il y a 200 ans dans ses écrits, c'est qu'il ne faut pas interpréter, il ne faut pas projeter des idéologies. Le seul but, le seul ordre moral que ressent le médecin au fond de lui, c'est guéris ton patient. Voilà. Donc, j'ai pas tout à fait répondu tout à l'heure sur les hautes dilutions, parce qu'il reste un problème, c'est celui de la preuve de l'efficacité des hautes dilutions. Et je vous cacherai que pas, pour être honnête et très court, que cette preuve n'est pas faite. C'est vrai que l'avatar de la mémoire de l'eau a existé, ça a coûté cher à Benveniste. Ouais. On a vu fermer son unité U200. Bon, la manière dont ça s'est fait, effectivement, est un petit peu répréhensible et louche, mais néanmoins, les faits sont là. Nous ne savons pas comment agissent les hautes dilutions, c'est-à-dire les produits homéopathiques, au-delà du nombre d'Avogadro. Il y a toute une biologie de l'infinitésimale, mais ça reste encore du domaine de la recherche fondamentale. Et nous, cliniciens, nous sommes très malheureux de ne pas encore pouvoir prouver d'une manière certaine comment marche l'homéopathie.
Cela dit, il faut quand même être parfaitement clair, la plupart des médicaments qui existent à l'heure actuelle, enfin des produits efficaces qui sont à l'heure actuelle disponibles sur le marché, fonctionnent pour des raisons que ceux qui les fabriquent sont à peu près incapables d'expliquer. Il faut quand même rappeler que les principaux produits, enfin vous savez ça mieux que moi, les principaux produits de traitement des maladies mentales sont des dérivés du bleu de méthylène. Oui. Et que, en fait, ça a été découvert par hasard. On a découvert ça tout à fait par hasard. Il n'y a pas une recherche volontariste qui consiste à dire on va calculer en fonction de ce qu'on sait, on devrait en faisant ça et ça arriver à un produit efficace. Non, c'est un beau jour, on s'aperçoit que ça marche et là on développe. C'est la pénicilline, c'est ça. Hein, la pénicilline, c'est un accident, ça a été découvert par accident. On a utilisé l'aspirine pendant des milliers d'années avant de découvrir que l'aspirine avait un effet et on a continué utiliser l'aspirine pendant des années sans savoir qu'elle était efficace dans la prévention des maladies cardiaques à très petite dose, oui. Ce que maintenant on sait. Donc, je dirais qu'il ne faut pas que les homéopathes se sentent en quelque sorte coupables de ne pas pouvoir expliquer pourquoi leur technique fonctionne, étant donné que, en gros, les médecins ne savent pas très très bien non plus pourquoi ça fonctionne.
La médecine conventionnelle. Oui. La médecine conventionnelle, elle est essentiellement basée sur la chimie. Chimie, biochimie, pharmacologie. Nous, homéopathes, on est plus proche de la physique. Les fondamentalistes, ce qui les intéresse plus, c'est l'électron, le neutrino, la théorie des sept catastrophes de René Thom. Vous voyez, on est plus dans les franges, c'est-à-dire on est probablement dans des domaines de physiologie, certes, parce que l'organisme fonctionne lui aussi en modèle infinitésimal. Notre cerveau, le cœur, le sang, c'est à des vitesses extrêmement rapides, c'est à des dilutions extrêmement fines dans nos neurones. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe dans nos neurones? Et nous agissons probablement de cette manière-là, mais pour pouvoir le démontrer, il faut de la recherche fondamentale, donc de l'argent.
C'est pas contradictoire. C'est, étant donné que la matière est un état vibratoire, on est dans le domaine de la physique. La chimie est un des aspects de la physique.
Absolument.
Je parle sous le contrôle d'ailleurs de... Là, je suis en train peut-être de dire des abominations, non, Daniel Raffard de Brienne, dont il faut rappeler quand même que vous êtes un chimiste à l'origine.
Oui, c'est-à-dire que j'ai fait de la science pendant 25 ans, mais je suis en fait licencié en droit et licencié S-lettres.
Oui, et licencié de la dernière... Alors, donc, ce livre, Avant bébé, lorsque l'enfant paraît, c'est la deuxième grande partie. Et puis la troisième partie, c'est la santé de l'enfant. Alors là, on entre vraiment dans, non pas le traitement des maladies, mais la façon d'ériger un ordre qui va permettre à l'enfant de se développer en bonne santé. Sinon. Ensuite, il y a le monde de l'enfant. C'est une série, une série de petits chapitres qui sont très intéressants et très accessibles parce que ça va très loin. C'est-à-dire que il y a un chapitre qui est le rôle de mamie, de papy, de tonton, de tata. On sent que vous allez très très loin. Et on sent que vous connaissez parfaitement vos patients, en fait.
Oui,
on vous les observez avec beaucoup de tendresse, beaucoup de considération. Enfin, c'est ce qui ressort de votre bouquin aussi.
Oui, c'est un minimum pour un médecin.
Oui, mais enfin, c'est pas toujours comme ça, hélas. Hein. Et puis le dernier chapitre, c'est En route vers l'âge adulte. C'est donc un livre qui peut accompagner pendant toute une vie pratiquement.
Oui. Les grands-parents achètent ce livre autant que les parents. Et je pense que c'est quelque chose qui est appelé à rester dans les bibliothèques et à ne pas passer au pilon trop rapidement ou être circulé sur les brocantes.
Il est très très facile à consulter. Il est d'une mise en page extrêmement moderne, très vivante, très colorée, hein, avec des encadrés, des petits dessins, des jolies photos. Comme on fait des journaux maintenant, mais c'est pas du tout un journal, c'est un livre qui fait quand même,
je suppose, 450 pages,
ouais. Oui. Et donc ça s'appelle Élever et soigner son enfant autrement, de la conception à l'adolescence, homéopathie, phytothérapie, fleur de Bac, oligothérapie, sophrologie, ostéopathie, nutrition, etc. Des enfants en pleine forme et des parents heureux. C'est paru au Courrier du Livre et c'est de Pierre Popowski et du docteur Simeka.
Et le prix?
Le prix est de 29,50 €.
Non, moi, j'ai pas d'enfant, mais je vais le lire avec passion.
Ah non, c'est remarquable, c'est très amusant à lire en plus, parce que il y a des petits portraits, il y a plein de petites explications.
Quand on vous voit, on a confiance.
Hein. Merci, docteur.
C'est moi qui vous remercie.
Merci de passer votre soirée en notre compagnie. Je vous rappelle notre rendez-vous de 21h tout à l'heure. Les soirées musicales des 21h du jazz et un hommage à Ray Charles. Ce soir, à 22h, les musiques de film avec Claudio. Et à 23h, la suite de notre série consacrée aux grands pianistes. Ce soir, Claudio nous parlera d'Alfred Brendel et nous fera entendre des œuvres de Schubert jouées par Brendel, bien sûr. Tout de suite, voici la seconde partie du Libre Journal de Serge de Beketch. Vous écoutez Radio Courtoisie. Il est 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Le froid et la famine, par les villes et par les champs, à la peine des victimes, marchaient les partisans blancs. À la peine des victimes.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 16 juin 2004 de 18h à 21h, en différé vendredi 17 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Madame Victoria, vous êtes
en train de causer. Je vous pose des petites questions diverses. Alors, à vos auditeurs préférés. Qu'avez-vous pensé en regardant le journal de France 2 de 20h que du déculottage de 40 agents de l'EDF se tapant les fesses pour accueillir M. Sarkozy?
Je trouve ça très rigolo, moi.
D'autre part, que pensez-vous des coupures d'électricité?
Je trouve ça très bien. Je vais vous dire.
Anarchiste?
Là, non, je ne suis pas anarchiste du tout. J'ai déjà dit ça la semaine dernière. Je sais que ça déplaît, mais je le dis quand même parce que je ne vois pas pourquoi d'un seul coup on s'énerve autour des électriciens. Alors que, premièrement, la volonté de privatiser EDF-GDF est un scandale, mais c'est du vol. C'est un crime contre le patrimoine national. Les gens qui sont au pouvoir sont des gangsters qui sont en train de brader les bijoux de famille. Des gangsters qui sont au service d'une bande de voyous mondialistes et de voyous cosmopolites qui sont en train de dépouiller la France. L'EDF-GDF, c'est le fruit d'un siècle de travail et de fric payé par les Français. On a construit le réseau électrique et le réseau de production d'énergie le plus fantastique du monde, qui fonctionne parfaitement. On a des électriciens gaziers qui sont des techniciens de très haut niveau, aussi bien quand il s'agit des cadres supérieurs de la boutique que quand il s'agit des gars qui font le boulot à la base. Ils sont totalement dévoués. Bon, en échange de ça, ils ont des avantages qui sont gigantesques, c'est indiscutable. Et il y a un avantage qui est scandaleux, alors lui, totalement scandaleux, mais qui est le fait du racket communiste. Oui. C'est l'affaire du comité des œuvres sociales de l'EDF, qui est financé à hauteur de 1% du chiffre d'affaires de l'EDF. Ça, c'est absolument injustifiable. Mais en dehors de ça, il y a deux problèmes. Il y a donc le problème de la réalité du système électricité et gaz de France. Et l'autre, il y a la réalité du CCAS. En ce qui concerne le gaz de France, électricité et gaz de France, moi je suis révolté par l'idée qu'on puisse envisager de privatiser tout ça. Pour deux raisons. La première, parce que c'est à nous que ça appartient. Et les voyous qui sont au pouvoir, les gangsters prédateurs qui sont au pouvoir, sont en train de brader quelque chose qui nous appartient et qui ne leur appartient pas à eux. Ils n'ont pas le droit de le faire. D'autre part, la deuxième raison, c'est que c'est une technique, comme je suis nucléariste à 100%, c'est une technique qui doit faire l'objet de tous les soins, l'objet de soins constants, comme disait Fernand Reynaud à propos des pieds. Si on croit que le privé va accepter de voir baisser les revenus de son capital pour assurer la sécurité, on est con, je le dis. C'est pas comme ça que ça marchera. Dès que ça va être privatisé, ça va commencer à se délabrer. Il faut que l'État, il faut que la puissance publique, il faut que la finance publique et que la totalité du pays soit là pour assurer le financement de l'entretien des centrales nucléaires qui sont extraordinairement sûres à condition qu'on s'en occupe tout le temps. Et ce qui coûte un prix fou que le privé ne mettra jamais. Maintenant, sur les méthodes d'action, montrer son cul à un ministre, je trouve ça absolument normal. Oui. Et je trouve que si on montrait son cul au ministre un peu plus souvent, on s'en porterait pas plus mal dans ce pays.
Il a été éclairé par la lune.
En plus, s'ils ne voient pas de, s'ils savent pas ce que c'est qu'une paire de fesses,
et c'est grave. Peut-être qu'ils aiment ça.
Et franchement, oui. Alors, ce petit péteux, d'ailleurs, tous ces gens-là, pour qui se prennent-ils? Eux, ils montrent bien leur figure à la télévision, je vois pas pourquoi on leur montrerait pas nos fesses.
Oui, mais que tout de même qu'ils aillent arrêter les centrales nucléaires comme ils font. Enfin, pas arrêter, bon, arrêter, j'exagère.
Ça, c'est, effectivement, je trouve ça totalement déplacé. Cela dit, vous pensez bien que c'est fait par des gars qui maîtrisent parfaitement la technique, ils savent ce qu'ils font. Ils ne vont pas prendre le risque de provoquer un Tchernobyl pour une revendication salariale. C'est pas ça. Quant à couper l'électricité à M. Raffarin,
Bayrou.
De toute façon, il est au courant de rien, il n'a pas besoin d'avoir l'électricité. Hein, je trouve ça Bayrou. Et puis, je passe de temps en temps le week-end à la campagne, dans une maison qui n'a pas l'électricité. C'est un véritable bonheur d'allumer une lampe à pétrole. Alors, M. Raffarin, qui a se fait offrir une lampe à pétrole par
On a assez râlé qui dérangeait tout le monde. Pour une fois qu'il dérange des gens que ça concerne, très bien. Alors là, vraiment.
Et en plus, ils ont fait un truc génial, c'est qu'ils ont, je sais plus où ils ont fait ça, ils ont fait basculer les tarifs sur les tarifs de nuit pendant toute la journée.
On fait des cadeaux.
Les employés de la SNCF faisaient la même chose.
Et oui.
Hein, si au lieu de faire grève en emmerdant tout le monde, ils disaient on fait grève simplement du contrôle des billets et de la vente des billets, prenez le train gratuitement, voyagez gratuitement, ils auraient tous les Français avec eux.
Évidemment.
Si la RATP faisait la même chose, ça serait pareil. C'est comme ça qu'il faut se battre. Et donc, je suis absolument pour mes camarades de la CGT.
Montrez vos fesses.
Sud et FO, camarades.
Voilà. Montrez vos fesses.
Montrez vos fesses.
Mais tout de même, une auditrice vous dit...
Vous êtes sur Radio Corpus.
Une auditrice vous dit tout de même, il n'est pas question de privatiser EDF. Le gouvernement envisage d'introduire une part de capitaux privés tout en maintenant
leurs
privilèges.
Prenez-moi pour un pédican. Mais je ne parle pas des privilèges. Justement, j'ai dit il y a une différence. Je fais la différence entre les privilèges et la réalité. Prenez-moi pour un pédican. Vous savez très bien qu'une fois qu'ils auront introduit tout petit bout de privatisation, ils iront au bout. En plus, c'est la volonté de l'Europe. Pour une fois qu'on peut dire merde à l'Europe, il faut surtout pas s'en priver. On dit aux Européens, foutez-nous la paix. EDF, c'est à nous. Alors, s'ils veulent qu'ils fassent une chose, qu'ils donnent une action, ils divisent le capital d'EDF en 50 ou 60 millions d'actions, et ils donnent à chaque Français, je suis bien clair, à chaque Français, une action EDF. Voilà. Le sens à tout le propriétaire, ça sera privatisé, avec interdiction de la vendre. C'est parfait, il n'y a rien à dire. Et obligation de reverser au pot tous les intérêts du capital, puisque le capital ne nous appartient pas individuellement, mais il appartient à la collectivité. Voilà, c'est quoi la solution. Sarkozy, téléphone-moi, je t'explique.
Voilà. Alors, dans les autres sujets...
Alors, le petit garçon, c'était naturellement, il y avait Aignan, Joachim, Clotaire ou Geoffroy.
Alors
je ne sais pas, moi j'avoue que je nage complètement. Là. Non, non.
Mais vous êtes totalement inculte.
Totalement. Absolument.
Une maîtresse d'école qui n'a pas lu le petit Nicolas.
Il était dans ma bibliothèque.
En plus.
Je l'avais survolé, mais je ne l'ai jamais lu.
Alors, je suis sûr que vous avez lu ce formidable coup de rasoir qui est le Petit Prince.
Ah non, alors, quelle barbe.
Ah bon, d'accord, ça va. Ah bon, ça va, alors. Cela dit, j'aime bien le Petit Prince quand même, mais c'est bien rasoir.
Dans les autres sujets que vous proposez, parlez-nous donc des élections européennes. Que pensez-vous de ces bons Français relativement nombreux qui ont voté pour la liste pour la Palestine ?
Oh, relativement nombreux. Bah, d'abord, ils ont. Alors, on est en démocratie, hélas, donc ils font ce qu'ils veulent.
La liste.
Pourquoi ils ne voteraient pas pour la liste Parce qu'ils veulent la Palestine dans l'Europe, c'est ça ?
Et alors, l'Europe, vous ne voulez pas ? Je ne sais pas.
Alors, je vais vous dire. Non, moi, voilà ce que. Il y a une réflexion que m'inspire cette élection européenne, c'est que c'est un véritable scandale. Et là, je pèse mes mots. Parce que. Non, mais c'est un scandale subliminal. C'est pas moi qui l'ai vu, c'est un ami qui s'appelle François, qui est venu me voir et qui m'a dit « Est-ce que vous avez vu ça ?» Et j'avais pas vu. Je suis vexé. Mais c'est scandaleux. Cette élection européenne a été organisée uniquement pour faire un affront aux immigrés qui sont sur le territoire européen en ce moment. Uniquement pour ça.
C'est plutôt bien.
Non, c'est très grave, parce que, comprenez, on a une époque, regardez la une du Monde aujourd'hui, on cherche des solutions pour interdire la haine raciale et tout, et c'est vrai. Et pendant ce temps-là, que font les députés européens ? Ils s'amusent à propager, à valider et à quelque sorte à justifier la haine raciale par des biais qui sont particulièrement sournois parce qu'ils sont subliminaux. Vous voyez pas de quoi je parle ? Combien y a-t-il de députés au Parlement européen ?
Une palanquine.
732.
Oui. Alors.
Ça vous dit rien, 732 ? Charles Martel, Poitiers. Voilà. Comme par hasard. J'aurais pu dire 730, 733. Non, 732. C'est scandaleux. Moi, je serais Guesso ou je ne sais pas quel chien coiffé. Je dirais, les enfants, c'est inadmissible.
Alors, que pensez-vous de la libération de Joël Aubron, criminel d'Action Directe, accueilli par une poignée de nostalgiques chantant l'International ?
Bah, tout est dit. Et de toute façon, cette pauvre Joël Aubron, là, on s'est aperçu qu'elle était folle parce qu'elle a une tumeur au cerveau, mais elle était déjà folle avant. Donc on n'aurait jamais dû la mettre en prison.
C'est un auditeur qui revenait sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi aussi, je suis étranger, sud-américain. Je crois que la seule façon dont notre...
Est-ce qu'il a de l'or ?
Oui, voilà.
Ça se chante, ça, mais bon, je ne sais, il ne le dit pas. Dont notre civilisation peut tenir tête au... Je ne sais plus ce que je lis, là. Je suis étranger. Je crois que la seule façon dont notre civilisation peut tenir tête au monde musulman est de retourner vers la religion, car il n'y a jamais eu de grande culture sans religion.
Absolument.
Et alors, une question, tout de même, une question. Pourquoi Patrick Goffman n'est-il pas là ?
Parce que Patrick Goffman...
Il supporte pas le méta.
Voilà. Il est fâché contre le méta. Non, c'est pas vrai.
Il a peur de moi.
Il est fâché contre Victoria. Moi, je dis toute la vérité.
Il a peur de moi, parce que j'ai une trop grosse voix et je couvre son frêle organe.
Parce que vous l'avez...
Alors, il est vraiment... Il se sent déconsidéré. C'est triste.
Offusqué. Et alors, il est vexé. Alors, donc, il a dit, je ne viendrai plus. Et moi, je suis bien triste, parce que moi, j'aime bien Patrick.
Je vais le remplacer. Alors, le Libre Journal, c'est 4 Place France Lys, Paris, 10e.
Alors là, mon cher Marquis.
Je parle de talent.
Hein. Vous êtes très en deçà de la main, je vous le dis carrément. Non, mais Patrick revient, tout est pardonné. C'est jeudi, il y a des raviolis.
Les auditrices vous réclament.
Ça, c'est vrai, oui.
Venez.
Marie-Saint-Éloi qui est là, je suis sûr qu'elle est venue pour voir Patrick. C'est pour voir Patrick.
Il n'est pas là,
voilà. Ben alors, donc, comme Patrick n'est pas là, vous avez un peu de temps pour nous parler de
la
de
prochaine
Roland
réunion.
Huron, alors.
Voilà. Donc, bonsoir à tous. C'est demain. Donc, la prochaine réunion de Forum de la France chrétienne aura lieu demain, jeudi, donc à 20h, avec Roland Huron. Donc, qui est Roland Huron ? C'est un essayiste qui étudie les problèmes politiques et philosophiques. Et c'est un ancien élève de l'École normale supérieure de l'ENA et c'est aussi un élu local. Donc il connaît la politique théoriquement et sur le terrain. Il a
normale
publié...
Sup et l'ENA.
Voilà.
Vous avez pris beaucoup de... Il faudra prendre beaucoup de café avant la conférence, non ? Vous
voulez
nous faire beaucoup de mon camarade On le mettra tout à l'heure. Non, c'est une blague entre nous. Mais il va parler de quoi ?
Donc, il a publié récemment Le Temps des Derniers Hommes aux éditions Hachette. Et son thème, donc le thème de la réunion de demain, sera l'évolution démographique de l'Europe dans le contexte mondial.
Ah ben, on est en plein dans le sujet, là.
Voilà. Donc, cette réunion aura lieu chez Jean de Matan, Paris 5e, donc rue Saint-Jacques, métro Luxembourg. Et les amis de Radio Courtoisie sont cordialement invités, d'autant plus que dans nos réunions, il y a toujours beaucoup d'étudiants qui viennent pour se former, rencontrer des personnalités de haut niveau. Donc pour tous ceux qui étudient les sciences politiques, qui veulent avoir une synthèse sur la démographie comparée en Europe et dans le monde, cette réunion est particulièrement intéressante. Alors pour tous ceux qui désirent s'inscrire, je vous donne un numéro de téléphone. 06 20 35 55 48.
Vous pourriez noter, Victoria. Bon,
mais il va me donner son papier.
Voilà, je vais vous le donner.
Dites-le, 06 20
35 55 48.
Roland Huro, oui, donc énarque, et, enfin, pas seulement énarque comment dirais-je, normalien, c'est aussi un essayiste, un écrivain,
voilà.
Un philosophe politique.
Exactement, il a publié pas mal d'articles intéressants qu'on peut d'ailleurs trouver sur Internet, ouais. En cherchant un petit peu.
Pourquoi vous personnellement, pourquoi vous intéressez-vous particulièrement à ces sujets ?
Parce que je suis étudiante en sciences politiques et que ça peut toujours être intéressant. Et comme il connaît bien et maîtrise bien ces sujets, je pense que cette réunion sera particulièrement formatrice et pourra apporter à tous ceux qui... aux étudiants comme aux adultes. Hein.
C'est bien. Bah
je vous donne aussi une adresse électronique.
Oui,
pour pouvoir s'inscrire. Alors, f.france.chrétienne, sans accent, @free.fr. Je répète, oui, f.france.chrétienne, @free.fr. Et traditionnellement, après les conférences, il y a un buffet. Donc les garçons en général apportent des boissons et les filles des nourritures terrestres. Et je tiens à rappeler que de nombreux auditeurs de Radio Courtoisie sont déjà venus à nos réunions, notamment avec Vladimir Volkov, avec le cardinal Honoré et la dernière réunion, donc avec le mois dernier, avec le prince de Lusignan à la galerie Bansard.
Ça, c'était intéressant, parce que je voulais y venir, mais ça m'a pas...
Oui, c'était aussi... très intéressant.
Enfin, vous n'allez pas me dire que c'était pas intéressant, mais c'est quand même un personnage assez passionnant, non ?
Voilà, c'était sur Chypre, sur les croisades à Chypre.
Merci beaucoup. Merci Marie Saint-Éloi. Je vous invite
c'est
à
venir
nous
remercie.
Annoncer les prochaines réunions du Forum de la France chrétienne, qui est une initiative très sympathique, parce que ce sont de tout jeunes étudiants. Vous entendez la voix de Marie, que c'est pas encore une très vieille dame.
Bien que je vais baisser la moyenne d'âge à Radio Courtoisie.
Oui, donc, on vient de marquer un point vers le bas. Merci beaucoup Marie, à bientôt.
Merci beaucoup.
Bonsoir.
Alors, on va faire remonter la moyenne d'âge, mon cher Daniel, je suis désolé de vous le dire.
C'était ce que j'étais en train de penser.
Donc vous n'êtes pas normalien.
Je ne suis pas suis anormal, c'est pas vrai.
Regardez, je reçois un message d'une dame. Craché sur le petit prince. Est-ce que Beckett a compris ce livre ? À quand l'écriture d'un tel chef-d'œuvre ? Par Beckett, plus ça, il n'y a pas de danger. Mais j'ai pas craché sur le petit prince, j'ai dit que c'était un peu rasoir, c'est tout.
Non, oui.
C'est pas bien méchant. Quand même.
En campagne, on se rase à la crache hein, quand on a pas de savon à barbe.
Non, mais on n'est pas obligé de tomber en pamoison. C'est pas mal, oui. Je me souviens, quand j'étais petit garçon, ce qui m'avait fasciné, c'était le serpent en forme de chapeau qui avait mangé un éléphant. Oui, ça, c'est des souvenirs de petit garçon, mais à 57 ans, vous conviendrez que je suis pas...
Je préfère Buffalo Bill. Bah oui.
Je préfère Buffalo... Alors, en revanche, pas Buffalo Grill. Hein. Alors ça, Buffalo Grill, non.
Pourquoi
hein.
Pourquoi
Ah, je vous raconterai ça un jour.
Je suis un client fidèle et obstiné du Buffalo Grill.
Vous savez comment on appelle le Buffalo Grill ?
La vache folle ?
Non, non. C'est...
Non. Moi, je, moi,
la
je
roulette
dis...
gastronomique.
Ah non, non, moi, je, moi quand je dis, j'invite toujours les gens, je dis, on se fait une vache folle.
Alors, ben,
d'ailleurs, je vous invite.
Non, merci.
Prochaine fois,
vous pas beaucoup été cher.
Si, je vais vous raconter l'histoire parce qu'elle est amusante. Non.
On va dîner chez Buffalo Grill.
Ce sont les exécutions médiatiques pour
concurrence financière. Parlons-en. Donc, moi, je vais dîner un soir chez Buffalo Grill. Et je donne mes sources en face de la gare du Nord.
Oui, c'est là que je...
Et je vais là. Pourquoi ? Justement parce que lecteur de mon ami Alain Sanders et lecteur quotidien de présent, j'avais été totalement indigné par la campagne qui avait été montée contre Buffalo Grill pour dénoncer des tas de choses. Et campagne contre laquelle présent et mon ami Sanders s'étaient engagés assez violemment. Et j'étais tout à fait d'accord avec eux. Et je dis à mes pauvres enfants, nous allons aller dîner chez Buffalo Grill pour leur témoigner notre solidarité dans cette agression probablement d'origine cosmopolite et mondialiste. Donc on rentre, on s'installe, et là on commande et on nous apporte des choses, mais c'était hallucinant. C'était totalement immangeable, mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc on ne mange rien.
Qu'est-ce que vous avez demandé ?
Ça me paraît
grillades. Ahurissant.
Des grillades.
Moi, je pense
et j'appelle j'appelle la serveuse, je dis, mademoiselle, nous allons nous en aller, veuillez me donner l'addition. Et elle regarde, elle me dit, vous n'avez rien mangé ? Je dis, non, je suis courageux mais pas téméraire, donc je ne toucherai à rien. Elle m'apporte l'addition, et puis en m'apportant l'addition, elle me dit, est-ce que je peux vous offrir un café? Je lui dis, non, merci, c'est vraiment pas la peine. Je préférais que vous fassiez venir le directeur de salle pour pouvoir lui expliquer pourquoi je ne mange rien. Alors elle disparaît, elle revient 2 minutes plus tard en disant, le directeur de salle n'est pas là. Je lui dis, écoutez, c'est le seul restaurant de chaîne que je connaisse en France où le directeur de salle n'est pas là pendant le service. Donc, allez le chercher. Et elle revient, elle me dit, il ne veut pas venir, il a autre chose à faire. Bon, ben j'ai dit, c'est parfait. Donc, j'ai quand même payé 90 euros pour cette plaisanterie, et on s'en va. Et je fais une lettre à Buffalo Grill en leur racontant ce que je viens de vous raconter. Et je reçois, il y a quelques jours, une réponse. Monsieur, nous attachons un grand prix à la satisfaction de nos clients. Nous sommes désolés de ce malentendu. Il n'y a pas du tout de malentendu. Ils se sont foutus de ma gueule, très clairement. Et nous vous prions de trouver ici, à titre de compensation, un billet, enfin, un bon pour une consommation gratuite de 5 euros à prendre exclusivement au Buffalo Grill de la gare du Nord, tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, à condition de prévenir de votre visite. Non, mais ils se foutent de la gueule du monde.
Bah, écoutez,
c'est pas Buffalo Grill, c'est Billy the Kid. C'est l'attaque de la diligence.
Je ne voudrais pas vous contredire, mais moi j'ai été lundi dernier encore avec grande satisfaction. J'y retourne mercredi prochain.
Pourquoi vous êtes secoué de trémulation comme ça depuis que vous avez dirigé.
C'est que c'est le seul endroit où vous êtes certain de ne pas trouver de vache folle, parce qu'après le coup qu'on leur a fait, ça m'étonnerait qu'ils fassent pas attention.
On vous a jamais donné la définition du vache folle. Une vache folle, c'est pas ce que vous croyez, c'est un taureau avec un sac à main.
Mais la vache dure, vous pouvez la trouver.
Je pense qu'une seule chose, c'est derrière, à l'arrière de leur... de mettre une serviette rouge, comme leur chemise, dans leur pantalon d'ailleurs. Alors j'appelle, il m'est arrivé d'appeler le serveur et dit, écoutez, hein, je vous préviens, mais vous avez votre chemise qui ressort par derrière.
Bon, mais vous êtes un farceur, Daniel.
Oui, un peu.
Enfin, et en plus, vous êtes, je comprends maintenant que vous ayez été un tout jeune résistant, parce que finalement, vous aimez le risque.
Ben, je crains que, ou plutôt, je suis inconscient.
Ah oui, c'est ça, d'accord.
Ah oui, parce que je prenais des risques aussi, même professionnels, pour faire un basketteur, m'engueulant. J'ai dit, oui, je suis peut-être un peu insouciant. Elle me dit, vous n'êtes pas du tout insouciant, vous êtes totalement inconscient.
Alors ça fait partie des souvenirs que vous racontez dans...
Non, c'est pas, j'ai pas raconté ça, ben, j'ai pas mis toutes
c'est
les...
C'est ce genre de souvenirs
oui,
que vous racontez,
oui,
en
oui.
tout cas, d'Endroit vers l'Azur, dont j'ai déjà parlé, qui est un très très joli livre, qui raconte, comme beaucoup de souvenirs, qui raconte votre vie, mais d'une façon très amusante. Et depuis votre premier vagissement, non pas jusqu'à votre dernier...
Peut-être pas loin. Hein.
Ben non, on n'est pas pressé.
Si vous continuez chez Buffalo Grill.
Si vous continuez chez Buffalo Grill, c'est pas exclu.
Mais j'ai prévu le deuxième tome pour 2030, je vous préviens tout de suite.
Ah bon, c'est bien. Quelle est la... Moi, ça m'intéresse toujours, parce qu'on reçoit les auteurs quand ils sortent leur bouquin, mais on les reçoit plus après pour leur demander s'ils ont eu des retours, des réactions, des...
Mais écoutez, tous les articles que j'ai lus sont très élogieux. Ce qui m'amuse, c'est que ce n'est pas pour les mêmes chapitres. Chacun, j'ai au fond plusieurs vies successives, et chacun s'intéresse à une partie et moins aux autres. Alors c'est très curieux, mais ils sont tous très gentils. Même dans Turin, il va paraître un article alors, extraordinaire.
Dans les choses que les gens retiennent, dont ils vous parlent, qu'est-ce qui vient le plus souvent?
Ben si, c'est un certain Serge Beckett, je dirais que c'est plutôt la période anté-belliciste.
Oui.
D'autres, c'est cette période de guerre, d'autres... c'est ma grosse bagarre dans les finances, ça, qui intéresse certaines personnes, qui en rase copieusement d'autres, et puis enfin, je sais pas, c'est l'ensemble. Ça me fait... Ah, ou le Saint-Suaire, ou la crise de l'Église, enfin, tout ce que j'ai pu... Tout ce dont je me suis mêlé...
Ce qui est très amusant, c'est que quand on lit ce livre, on découvre une facette du personnage Raffard de Brienne qui n'apparaît pas du tout, ni physiquement, ni dans le reste de votre œuvre, ni dans les travaux que vous faites. Enfin, le spécialiste du Saint-Suaire, le président de l'Association des écrivains catholiques, le vice-président le président d'association catholique. On a l'impression
oui, il y a toute une liste.
Une grande austérité, d'un grand sérieux. Et ce qui est vrai, vous avez une grande austérité de mœurs, vous êtes très sérieux dans votre travail, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que vous êtes un très joyeux compagnon. Alors ça, c'est typiquement nordique. Hein.
Je ne sais pas. À vrai dire, je n'arrive pas à savoir si tout est sérieux ou si rien n'est sérieux.
D'ailleurs, un peu des deux, ça dépend des heures.
C'est bon. Non, je parle de la vie en général. Hein.
Oui, c'est bien ce que j'avais compris. Oui. C'est notre regard qui fait.
Les gens me disent anticonformiste. Non, je ne suis pas anticonformiste, je suis non-conformiste.
Oui, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait. Mais c'est-à-dire que chaque fois que je parle de vous, les gens me disent « Ah bon, tu connais Rafa ?» Mais alors, dis donc, il ne doit pas être rigolo tous les jours. Et je dis « Mais vous vous trompez lourdement. C'est un des hommes les plus... »
C'est entendu ce que vous avez dit. Vous avez dit Rafa. Vous avez pas dit
Rafa. Ah, mais ça, on m'a fait le coup.
Bah, évidemment.
On m'a fait le coup. Non, mais pas exprès. Je remettais le prix de poésie au Cercle Connaissance. Je fais partie de ça aussi. Au Cercle Connaissance, un brave monsieur Georges Clément, qui était tout ému, était même venu me voir à Lille pour que je dise pas trop de bêtises sur lui. Et donc j'ai remis le prix, je fais un petit laïus comme ça sur les rapports entre la musique et la poésie, etc. Et alors très très ému, il a remercié officiellement Monsieur Raffarin de Brienne.
Oui.
Ça lui vous fait rire.
Pas ça, oui ça fait rire tout le monde. Non, j'ai dit écoutez, faut pas confondre Raffarin de Poitiers, Raffarin de Brienne, le deuxième est beaucoup mieux connu.
Bien. Donc, moi, je recommande vraiment la lecture de ce livre qui s'appelle « Droit vers l'azur », d'abord, parce que le titre est magnifique.
Hein. Et ça, il n'y a pas de moi. Enfin, c'est résultat de discussion. Vous savez, les éditeurs sont des gens absolument charmants, mais je ne mets plus de titre à mes bouquins, parce qu'ils mettent toujours autre chose. Oui. C'est pas peine de fatiguer. «
Droit vers l'azur », c'est un conte héraldique, c'est sympathique.
L'idée de l'éditeur, c'est que je marche devant sans faire attendre. Je fonce. Toujours dans le même sens.
Le fait de la discussion avec les titres, c'est un grand classique de l'édition et du journalisme. Alors, quand j'étais à Minute, j'avais mis au point une technique qui était de, je préparais un titre que j'aimais bien et je ne le mettais pas sur le papier. Je mettais un autre titre que j'aimais pas. Et puis je présentais ça à Monsieur Boiseau, le directeur, qui me disait mon pauvre Biquet, mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Vous allez me retravailler ça. Alors je partais, je portais un deuxième titre complètement bidon. Et il me disait non mais vraiment, c'est pas possible. Vous comprenez rien. Et puis la troisième fois, j'apportais le titre dont j'avais envie. Alors il me disait, bon, en désespoir de cause, prenons. Comme vous décidément, vous n'y arrivez pas, on prendra celui-là. Ouais.
Puis on ne peut pas trop discuter, parce que ce sont eux les responsables des ventes.
C'est surtout le responsable de mon... Enfin, à Boiseau, c'était surtout le responsable de mon salaire. C'est pour ça qu'on discutait pas beaucoup.
Oh, ça, de ce côté-là, je veux bien dire que...
Vous avez salué le personnage qui vient de s'installer à côté de vous ?
Bien sûr, je le connais de longue date.
Non. Si vous êtes un personnage.
Une personnalité.
Il nous fait le numéro de l'humilité. Là. Bonsoir, père.
Bonsoir, Serge.
Voilà, je pense que les auditeurs vous ont reconnu. On va vous parler dans peu d'instants. Mais vous pouvez parler tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de...
Parce que M. Raffard de Brienne, on pense qu'il est sévère. Mais les gens oublient qu'ils ne voient pas d'un œil. Quand ils passent parmi des centaines, des milliers de personnes, les gens disent « il m'a fait la tête, il m'a fait la gueule ». Ce qui est faux, et ça m'est arrivé une fois. Ouais. J'ai croisé et je me suis dit « il ne m'a pas vu
oui, ». Mais en fait, vous êtes un peu parano aussi. Vous pensez
tout.
Que tout le monde vous en veut.
Non, absolument pas. Je ne suis pas du genre. Non, je ne suis pas un persécuté. Non. Oui, il y a des moments, j'ai des baisses comme tout le monde.
Je trouve que c'est plutôt une chance de voir que la moitié de l'humanité.
Attention, il y en a un qui voit pratiquement pas, mais l'autre qui voit pas beaucoup mieux.
Oui.
Et de toute manière, je suis distrait.
Donc, oui, en plus. Alors, c'est ce qu'il m'a dit, je suis distrait en plus. Alors, il faut avoir beaucoup d'indulgence pour monsieur Raffard de Brienne. Il vous croise, il vous voit pas, mais c'est pas pour ça qu'il pense pas à vous. Et il pense à tout le monde, il pense à nous tous, à toute notre famille.
Ah, mais non, ça, je peux en témoigner.
Mais oui. Fait, donc, je voulais dire ça. Oui, c'est mon apport. À l'épopée Raffard de Brienne.
Voilà, un chapitre à ajouter dans la suite
posthume
en 2030. Alors, en tout cas, il y a un autre bouquin qui n'est pas du tout posthume. Alors là, c'est la partie sérieuse. Enfin, c'est la face sérieuse de Raffard de Brienne. C'est la réédition revue augmentée, largement modifiée, d'un livre qui avait fait compté quand il est paru, qui s'appelle Il n'y a qu'un seul Dieu.
Le titre n'est pas de moi non plus.
Non, mais ça, je crois que j'ai déjà entendu ça quelque part. Et qui est un précis d'apologétique. Un petit précis d'apologétique. Alors, c'est assez culotté quand même de publier, là je parle pour les éditions de Chiré, le droit vers l'azur c'est
Concept
hein,
c'est-à-dire l'édition de Paris.
L'édition de Paris Concept. Et là c'est Chiré qui est assez culotté quand même de publier en 2004 un livre d'apologétique.
Oui et non, il n'y en a aucun.
Ah oui, il n'y a pas de concurrence. Mais est-ce qu'il y a un lectorat ? C'est ça aussi la bonne question.
Mais ça dépendra du bien que vous en direz.
Voilà. J'en ai déjà dit beaucoup de bien, mais je voudrais y revenir parce que c'est un livre absolument indispensable. C'est un livre didactique, c'est un livre de pédagogue. C'est-à-dire que quand on dit ça, hein, même vous, mon père, je ne suis pas gros genre qui remonte à son cœur.
Non.
Alors, il n'y a qu'un seul Dieu. Bon, c'est évident, bon, qu'est-ce qu'il va nous raconter encore ? Et alors, il nous dit, je vais vous lire les têtes de chapitre, c'est beaucoup plus simple. La connaissance de la vérité, Dieu, l'homme dans le plan de Dieu. Et alors on dit, tout ça je connais, je suis au courant de tout ça, enfin j'ai déjà lu des trucs, j'étais au cathé, et la religion catholique, alors en plus, dernier chapitre, la religion catholique, je connais un petit peu quand même, ça fait 50 ans que j'en fais, 57 ans. Et puis, on commence à lire quand même par discipline d'amitié, on se dit, je peux pas ne pas lire ce livre, puisque c'est un ami qui l'a écrit, et on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qu'on a oubliées, ou qu'on n'a pas bien comprises, et qui sont amenés petit à petit. Alors c'est pour ça que je dis que c'est un des véritables livres de pédagogue, c'est-à-dire qu'à chaque instant on progresse dans la compréhension et la connaissance. Et
c'était mon idée, c'était de
c'est très bien
d'amener de démontrer la crédibilité des vérités de la foi par un raisonnement par étapes, raisonnement progressif.
Alors c'est très bien fait. Bon,
et c'est le summum de ce que j'ai pu faire.
Ouais. Premier grand chapitre, la connaissance de la vérité. Mm-hmm. Donc les instruments de la connaissance, ben ça va loin. C'est-à-dire c'est les organes des sens, le cerveau, l'intelligence, l'abstraction, le jugement et le raisonnement. Deuxième, c'est quand même gonflé, la vérité. Intitulé un chapitre la vérité, c'est pas mal courageux, non ? La soumission réelle, les évidences, l'erreur, principe de base du raisonnement, les caractères de la vérité. Et c'est presque provocateur d'oser écrire aujourd'hui un chapitre dans lequel on dit voilà ce qu'est la vérité, voilà à quoi on reconnaît la vérité, à quoi on reconnaît l'erreur, puisque maintenant tout est le contraire de tout est validé.
Mm-hmm. C'est d'ailleurs, je pense, le signe de notre époque, c'est les gens vivent en pleine contradiction sans en être le moins du monde gêné.
Ah mais bien sûr, mais on le voit dans toutes les conversations qu'on peut avoir avec les gens. Vous dites quelque chose, ils abondent, oui, ah mais vous avez raison. Et quand vous apportez votre conclusion, ils sont d'accord sur toutes les prémices et ils sont pas d'accord sur la conclusion. C'est sur la démocratie par exemple. Chaque fois que je dis, Est-ce que vous accepteriez de voyager dans un avion dont le pilote a été élu par les passagers avant le décollage? Les gens vous disent non. Enfin, première question. Deuxième question. Vous êtes bien d'accord que c'est plus difficile de diriger un pays que de piloter un avion? Oh ben oui, certainement. Oui, ça c'est certain. Et vous acceptez de vivre dans un pays dont vous avez élu le président? Ah oui, c'est pas pareil. Ah, si, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, s'il y a cette espèce d'impossibilité de franchir le non, même pas le fossé, la passerelle, qui conduit des prémices à la conclusion. Mm-hmm. Et alors, ça, ce livre vous prend par la main et il ne vous démontre pas qu'il ne faut pas voter Chirac, c'est pas ça du tout que je veux dire. Mais il vous demande que, à partir du moment où vous...
Ça, c'est dans le sous-chapitre les évidences.
Les évidences. Il vous démontre que quand vous acceptez, et vous ne pouvez pas faire autrement certaines évidences qui se vous crèvent les yeux, et bien vous en arrivez à la conclusion que Dieu est Dieu, nom de Dieu, comme disait Clavel, et qu'il est seul en trois personnes. Voilà. Alors, maintenant la question c'est pourquoi rééditer ce livre maintenant? Parce qu'il a été édité la première fois il y a combien? Une vingtaine d'années déjà, non?
92 par là.
Ah non, c'est 10 ans, hein, un peu plus de 10 ans.
Ah pourquoi? Même pas dans l'idée de le répandre beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il était il s'est développé, non sans réticence de la part des gens qui étaient destinés, dans les milieux essentiellement tradis. Alors là, les questions de personnes ont beaucoup joué.
Et là, c'est clair comment ils l'ont reçu. Ils n'ont pas protesté, vous occupiez un peu de ce qu'ils regardaient?
Ah, pas du tout.
Non, j'étais content de vous débarrasser de cette thèse.
La préface du cardinal Stickler, quand même.
Une préface du cardinal Stickler qui dit merci, je vous remercie de la délicate attention que vous avez eue de votre bon jugement. Le texte révisé, donc vous avez en quelque sorte bénéficié là, du nihil obstat et de l'imprimatur du cardinal Stickler. Ouais. Le texte révisé de votre petit ouvrage d'apologétique, Il n'y a qu'un seul Dieu. Et votre décision de rééditer me paraît d'autant plus opportune que l'on tend actuellement à affirmer la foi dans le cadre du sentiment et de la recherche du sensible. C'est quand même extraordinaire, entre nous...
C'est ce que j'appelle la foi par les tripes.
Oui, mais c'est pas mauvais, ça, la foi par les tripes.
Les tripes peut-être, mais la foi par les tripes, si, c'est mauvais.
Non, ce que je veux dire, c'est que...
Parce que si je ne m'abuse, la foi, c'est l'adhésion de l'intelligence aux vérités révélées.
Oui, mais quand on dit « commence par te mettre à genoux et tu le croiras », ça veut dire que ça passe quand même par le sentiment, hein, il y a un moment.
Non. Ça, il faut avoir fait... Vous faites ça après la dernière page du livre. Ça, si vous vous contentez du sentiment, pourquoi pas... ce que je dis dans une interview en présent... nos braves gens, maintenant, ils remuent les mains en criant « Jésus est là, Jésus est là ». Mais ils seraient tout aussi heureux de dire « Krishna, Krishna
voilà. ». S'ils venaient, oui. S'il n'y a aucune raison. En plus, c'est plus rigolo parce qu'il y a une petite clochette.
Krishna, ah oui.
Ah oui, ding, 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 Krishna, Hari, Krishna, Hari, Hari, Hari. C'est moins difficile à retenir que l'acte de contrition. Hein.
Donc, il y a du sentiment, évidemment, à certains moments, mais la particularité de la religion catholique, c'est d'être vrai. Alors, autant le démontrer.
Ouais. Oui, mais ce qui m'amuse là dans le propos, je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais ce qui m'amuse beaucoup dans le propos du cardinal Stickler, c'est que quand il dit la tendance actuelle à enfermer la foi dans le cadre du sentiment et de la recherche du sensible, il nous parle du concile, là. Enfin, d'un des effets
De l'esprit conciliaire en général, voilà. Antérieur au concile, donc, postérieur au concile. Et...
Voilà un document fantastique, c'est... La contestation du concile par le cardinal Stickler, sous les espèces d'une préface à un livre de Daniel Raffard de Brienne, c'est quand même pas mal.
Il conteste notamment la révolution liturgique. Ouais. Vous savez, il ne faut pas s'imaginer que le Vatican, c'est un espèce de bloc. En fait, il y a des gens très, très éclairés, il y a des gens qui le sont moins, il y a toutes sortes de tendances.
Il y a un chapitre, enfin un grand chapitre, une partie du livre qui est particulièrement intéressante parce que c'est une question qu'on traite trop souvent mal. C'est l'homme dans le plan de Dieu. C'est-à-dire quel est le rôle de l'homme dans la création? À quoi il sert en quelque sorte? Et là, simplement toujours par le même système de la progression, de la démonstration progressive. De l'usage de l'intelligence dans le défrichement des idées, vous arrivez à apporter une explication et une conclusion convaincante. C'est-à-dire que quand on a fini de lire ce chapitre, on se dit, bah tiens, je ne suis pas totalement inutile. Mm-hmm. Et puis, il y a les différences, la religion et les fausses religions. Alors là, c'est pareil. C'est assez courageux d'intituler un chapitre les fausses religions, parce que ça suppose qu'il y en a une vraie. Et des qui sont fausses, et vous donnez les critères de reconnaissance des fausses religions. Mm-hmm. Ce qui est très utile dans un débat.
Oui, alors les gens des fausses religions ne sont pas très contents, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils y fassent?
Bah, ils n'ont qu'à devenir catholiques. Ça me paraît assez simple quand même, comme solution.
Oui, parce que je m'efforce au passage de liquider les erreurs, aussi bien les erreurs de pensée comme l'idéalisme, le subjectivisme, le libéralisme, etc.
Alors, je voudrais...
Descartes, enfin, toute la bande d'Hegel.
Lorsque l'on considère la longue liste des religions, l'on se doit d'éviter dès l'abord deux attitudes irrationnelles, l'agnosticisme... Et non pas le gnosticisme, j'insiste pour notre auditeur. L'agnosticisme qui revient à rejeter toutes les religions et l'œcuménisme qui revient à toutes les accepter. Du reste, la deuxième attitude mène logiquement à la première. La seule attitude raisonnable consiste à examiner les différentes religions à la lumière de l'intelligence afin de rechercher si l'une d'elles présente des critères de vérité. Cette recherche permet, chemin faisant, d'éliminer les religions fausses. On peut même commencer par éliminer systématiquement ces dernières. Et alors, après, il y a le développement de la technique. Et puis, les différentes fausses religions, les paganismes, pardon, les religions de la Chine, les religions de la Perse, les religions de l'Inde, l'islam, le judaïsme talmudique et, j'en suis bien désolé pour nos frères dans le Christ, le protestantisme, que vous traitez comme une fausse religion.
Ouais, puisqu'elle n'est pas vraie.
Mais pas l'orthodoxie, en revanche. Je suis plaisir.
Différent.
C'est différent. C'est décidément un livre bien agréable.
D'ailleurs, je ne parle pas de l'orthodoxie, non. Le problème est plus. Est un peu en dehors. Hein. C'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de différence.
C'est un schisme, c'est pas une hérésie.
C'est ça.
Voilà. Il n'y a qu'un seul Dieu. Daniel Raffard de Brienne, lettre préface de son éminence le cardinal Stickler. Moi, je vous recommande la lecture du bouquin, mais ou du livre, parce qu'il faut dire le livre, pardon. Mais lisez avec une particulière attention la lettre du cardinal. Elle est quand même tout à fait intéressante. Parce que c'est pas le moins bon, hein, cardinal Stickler, quand même, il faut bien reconnaître.
Vous avez fait une très belle présentation, vous avez dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Pierre Raffard de Brienne.
Oui,
vous l'avez dit comme ça,
à la ligne.
Je trouvais que c'était très bien comme présentation.
Non, notre amitié qui est forte et sincère ne va pas jusque-là.
Je vais perturber mon humilité, là.
Et puis alors, je parlais du petit livre pour enfants, pour enfants, paru chez Clovis. C'est tout à fait dans un autre genre.
Oui.
Illustré par Char, la collection Le Lys d'Or, Constance de Compiègne. C'est un très joli personnage, ça.
Oui, je fais des livres sur des saints qui peuvent plaire aux jeunes, aux enfants plus précisément, et qui se trouvent dans un contexte historique intéressant.
Mmh. Oui, alors ça permet de faire...
Oui.
Un beau personnage.
Oui, parce que Constance de Compiègne, c'est la plus jeune des carmélites de Compiègne qui ont été massivement exécutés. Ce ne sont pas d'ailleurs les seuls couvents qui ont été... Le seul couvent qui a été exécuté en bloc, hein. Il y en a eu d'autres.
Dans le génocide de religieux.
À Valenciennes, je ne m'abuse, il me semble, à Arras. Enfin, il y en a eu un certain nombre. Seulement, le Compiègne est beaucoup plus connu parce que, d'abord, une des religieuses a échappé à la mort parce qu'elle n'était pas là, tout simplement. Et elle a recueilli tous les souvenirs. Les
souvenirs.
Les témoins, notamment. Il y avait toujours au moins un prêtre ou deux au pied de l'échafaud pour donner l'absolution. Et puis le fait que ces religieuses, tous les jours, offraient leur vie pour que la terreur s'arrête. Peut-être d'autres ont-elles fait, mais on ne sait pas. Et de fait, la terreur s'est arrêtée, ou tout au moins largement freinée, peu après leur mort.
Alors c'est un livre merveilleux pour les enfants, hein, parce que ça leur montre... ce que pouvait être l'héroïsme des martyrs. Et à la fin, il y a cette scène extraordinaire où la sœur Constance s'avance vers Madame Lidoine,
pour recevoir sa bénédiction. Et selon la règle, elle s'agenouille devant Madame Linoine et elle lui dit permission de mourir à ma mère, ce qui est extraordinaire.
Bien sûr.
Et Madame Linoine lui répond, allez ma fille. Elle lui donne à baiser une petite statue de la Sainte Vierge qu'elle dissimule dans sa main. Et Sœur Constance entonne le Laudate Dominum Omnes, toutes les nations louent le Seigneur, et elle monte à l'échafaud. Et c'est vraiment pour un enfant, c'est d'un enrichissement extraordinaire de lire ce genre de choses, de voir à quel point le vœu d'obéissance va loin. Qu'est-ce que ça signifie le vœu d'obéissance pour une religieuse, pour une carmélite? C'est quand même, on est assez loin des petites plaisanteries actuelles de l'éducation moderne et libérée. Hein. Très joli petit livre, joliment illustré bien sûr par Charles. 7,50 €.
Et rigoureusement exact sur le plan historique.
Ah oui, certainement. Alors en plus, je voulais dire ça tout à l'heure. C'est vrai sur le plan historique. Il y a au début quelques pages de description de l'île de France dans ses premiers temps, où on a l'impression de lire les livres d'histoire qu'on lisait quand on était enfant. Et de voir les gravures qu'on voyait en classe sur les murs, ces gravures colorées, ces grands panneaux colorés comme ça. L'île de France est une belle province où tout est doux, tempéré, modéré, sous un ciel bleu pâle pommelé, où souvent défilent lentement de ronds nuages blancs tachés de gris, s'étend une campagne toute verte parcourue par de calmes rivières. Les collines elles-mêmes restent modestes et accueillantes. Chaque matin, les prairies se couvrent des perles de la rosée, mais la rosée humecte aussi de magnifiques forêts où les hommes préhistoriques chassaient déjà le cerf et le sanglier. Bon, ça fait rêver, quoi.
C'est une sérénité qui donne plus de force à l'action révolutionnaire, justement, par opposition.
Voilà, vous faites des bien belles choses, monsieur De Moyenne, je vous le dis comme je le pense.
Eh bien, vous êtes bien aimable. Mais vous de même, vous faites des.
Oui, vous êtes bien tout à fait le même genre, comme c'est pas très bucolique, ni.
Ah bon, non.
C'est ce que j'écris dans mon journal. Hein.
Ah ben non, il n'empêche plus au burin, la mitraillette.
Ah non, ben j'aime énormément la première page.
C'est charmant pour les autres.
Ah ben non, alors les autres sont bien aussi. Enfin, qu'est-ce que vous voyez, quand on est plein de ça et quand on arrive à l'avant-dernière page.
Commencer par la fin.
Oui, il faudrait réfléchir ça peut-être, oui.
Et voilà.
C'est une bonne idée.
Ah, vous avez un ami, quelqu'un qui vous aime bien, qui dit « Monsieur Raffard de Brienne se targue d'être non-conformiste, mais s'il l'était vraiment, il se serait abstenu d'écrire un livre sur sa vie, ce qui est un conformisme navrant.
Ce qui est dommage, c'est que ce ne soit pas signé, tout ça, parce que je suis certain que c'est...
On les a au téléphone, éventuellement, ils nous donneraient leur nom si on leur demandait. Un auditeur vous demande « En quoi l'orthodoxie est-elle un schisme par rapport au catholicisme ?»
Bon, alors, écoutez, un jour, j'inviterai un prêtre orthodoxe pour nous expliquer l'affaire du filioque. J'ai fait ça une fois. Je me suis aperçu qu'ils n'en savaient pas beaucoup plus que moi.
C'est un schisme en ce sens que les églises orthodoxes, parce qu'il y en a, elles sont toutes autocéphales, se sont séparées de l'église de Rome. C'est tout,
c'est ça un schisme.
Et puis on vous dit, là, la secte hétérodoxe n'est pas seulement schismatique. Ces gens-là nient que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils.
Ah oui,
ils n'ont donc pas la vérité.
Père, par le Fils.
Par le Fils, oui,
ils n'ont donc pas la vérité catholique. Ils sont hérétiques.
Alors attendez,
ce fameux filioque.
Voilà. Cet auditeur qui nous tient informé de ses réactions avec beaucoup de constance et beaucoup de gentillesse, parfois beaucoup de. Parfois une certaine. Comment dirais-je. Pas perfidie, c'est pas ce que je veux dire, une certaine alacrité.
Quelquefois.
J'aimerais bien qu'il m'envoie une courte lettre, monsieur, si vous le voulez, pour m'expliquer en quoi le fait de dire que l'Esprit procède du Père par le Fils fait qu'on n'est pas chrétien. Alors que si on dit que l'Esprit procède du Père et du Fils, on est chrétien. Parce que moi, ça fait 50 ans à peu près que je m'interroge. Pas 50 ans, mais 47 ans. Quand j'étais baptisé orthodoxe, quand je suis devenu catholique, on m'a expliqué ça.
J'ai jamais compris. Donc il y a 47 ans que ça s'est passé. Et j'aimerais bien comprendre avant de mourir. Donc si vous pouvez me faire assez rapidement une petite lettre courte.
Avec un croquis.
Avec un croquis, par exemple.
Un autre. Voilà. Le titre « Il n'y a qu'un seul Dieu » est très mauvais, car il se prête à toutes sortes d'interprétations, et notamment l'escroquerie bien connue, selon laquelle nous avons tous le même Dieu.
Oui, monsieur.
Ah, le titre, je vous dis, il n'est pas de moi, de toute manière.
Alors, un auditeur dit, excellent esprit comme d'habitude, merci beaucoup, monsieur, mais permettez à un de vos fidèles auditeurs de la surprise, sauf erreur ou omission, le président fondateur de Buffalo Grill a été invité pour parler de sa carrière quelques mois avant le concert médiatique de La Vache Folle par un patron de Radio Courtoisie. Il paraissait honnête, courtois et commerçant. Fidèlement, voilà. Mais je ne mets pas en cause le président fondateur de Buffalo Grill, que je n'ai pas le plaisir de connaître. Et je dis simplement, j'ai raconté une petite histoire qui m'est arrivée, et ouais. C'est tout, mais ça ne veut pas dire que Buffalo Grill est un repère de bandits, c'est pas ça du tout. Je suis convaincu que le président fondateur est quelqu'un de bien, et je continue à penser d'ailleurs qu'ils ont été victimes d'une opération de sabotage médiatique bien organisée. Mais la seule chose que je peux leur dire, c'est certainement pas avec les méthodes qui s'appliquent en ce moment qu'ils vont réparer le mal que leur a fait cette campagne médiatique. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Merci, mon cher Daniel. Je rappelle le titre de vos livres.
Non, c'est tout.
Ah bon, déçu quand même.
Constance de Compiègne, par Daniel Raffard de Brienne, aux éditions Clovis, c'est pour les enfants. Daniel Raffard de Brienne, Il n'y a qu'un seul Dieu. J'ai remarqué, je fais attention cette fois-ci. Nouvelle édition, revue et largement corrigée, avec une lettre préface de son éminence, le cardinal Stickler, ça s'est paru chez Chiré, et avec une très jolie couverture, une très jolie...
Jaquette,
oui. Et puis naturellement, le fameux droit vers l'azur,
avec
que le conformisme
aussi.
Bien connu de Daniel Raffard de Brienne lui a fait.
Avec une préface aussi.
Rédigé, avec une préface aussi, oui, de
Vladimir Volkov.
Vladimir Volkov, c'est ça.
C'est un excellent ami, et est un peu orthodoxe aussi, je vous signale.
Bien sur les bords, et les bords sont extrêmement larges. Père Jean-Paul. Alors, ça, vous avez l'air en pleine forme, vous avez l'air d'aller fort bien, je m'en réjouis.
Moi, je me suis beaucoup reposé aussi, pendant plusieurs mois presque.
Oui, ben, ça ne vous fait pas de mal, hein.
Non. Bon. Mais les gens se demandent si j'existe encore. Plusieurs ont téléphoné ou écrit pour dire où est le père Argouache.
Je peux témoigner, vous étiez dans quelle cargascule, au pain sec et à l'eau.
J'ai fait pénitence un peu, parce que je suis un pêcheur comme tout le monde. Hein.
Vous savez que la confession publique n'est pas valide chez nous. Hein.
Oui, je sais, mais c'est vrai que les gens nous mettent tellement, quelquefois tellement haut, que quelquefois on est obligé de leur rappeler quand même qu'il faut qu'ils prient beaucoup pour nous.
Vous n'êtes que le pauvre homme, qu'est-ce qu'on devrait dire. vous êtes allé aux obsèques du colonel Argouche, j'aurais dû parler de lui au début de l'émission, puis les choses se sont mal embringuées, mais...
Oui, j'étais à cette messe d'enterrement. Évidemment, le colonel Argout, pour nous, c'est le petit prince. C'est celui qui a tenu envers et contre coup. Et contre tout, c'est le dernier, un des derniers. Vous m'avez rappelé que capitaine Kurulché vous a téléphoné. Il y en a d'autres. Mais enfin, c'est...
Château Joubert aussi, qui est
oui,
toujours
des c'est une personne emblématique du combat. Que nous avons mené. Moi, j'étais enfant, j'avais 13-14 ans, mais enfin, pour moi, le colonel Argout a remplacé, quand mon père est mort il y a 12 ans, le colonel Argout a remplacé un peu mon père. Il avait une paternité pour tous les jeunes et pour la jeunesse de France en entier. Il pensait souvent à la jeunesse de France, il parlait beaucoup de la jeunesse de France. J'étais là-bas, j'ai vu bien sûr le père abbé Dubarou, qui est quand même fort handicapé, qui devait célébrer la messe mais qui n'a pas pu le faire, et c'est le père Arène, donc un ancien secrétaire du maréchal de Lattes de Tassigny qui a célébré, et moi-même j'étais un petit peu dans l'ordonnancement des cérémonies.
Le père Arène était un compagnon d'Algout, puisqu'Algout avait avait été chef d'état-major de Lattes, il s'est connu à cette époque-là.
Il a fait d'ailleurs un magnifique sermon. Et quand le corps est arrivé, il était porté par des officiers parachutistes, dont ses deux fils capitaines, l'un d'ailleurs encore au 13e dragon parachutiste. Il y avait énormément d'officiers du 13e RDP qui étaient là, et par ses filles. Et j'ai fait chanter « Victoire, tu règneras » quand le corps est arrivé. évidemment, j'aurais préféré, comme tous, qu'il y ait 10 000 personnes. Quand on voit le colonel Argout entouré d'une garde de 400 ou 500 personnes maximum, on se dit, mais c'est rien par rapport. Oui. Alors, il y a eu l'enterrement qui a été fait le lundi, qui a été très vite annoncé par France Info ou par présent, mais à la dernière minute, sans horaire pour l'enterrement. On regrette que c'était pas l'occasion d'un grand rassemblement de la jeunesse de France, en tout cas d'un certain nombre de personnes de notre famille de pensée. On regrette, parce qu'il y a très peu de grands rassemblements maintenant. Quand il y a des enterrements, on se retrouve à 500, 600, alors qu'on pourrait être 10 000, 20 000, 30 000. Parce que là, tout le monde peut y aller pour un enterrement. Autant une manifestation, les gens sont divisés, autant pour un enterrement. Bon, moi j'ai beaucoup regretté, ça fait rien, ça s'est passé comme ça. Et il y a eu une conversion, pratiquement. Avec les scouts de Riomont, le colonel Argout m'avait reçu il y a maintenant 6-7 ans à la bataille, dans cette ferme fabuleuse et pittoresque qui se trouve en pleine forêt de Darnay. Et là, le curé m'avait refusé de célébrer la messe tridentine dans son église. Je vais manger avec lui. Il avait été très dur avec moi. Et là, une sorte de conversion de ce prêtre. Il ne parle que du colonel Argout. Et il nous a permis, dans cette église fabuleuse de Darnay, qui est énorme, avec des orgues sensationnels, moi, je suis arrivé avec tout le matériel. J'ai pu monter mon hôtel sans problème. Il a été d'une gentillesse exceptionnelle. Donc, c'est une des grâces de l'enterrement du colonel Argout. À la fin de la cérémonie, j'ai fait prier, évidemment, pour toutes les victimes de l'Algérie française. Hein, et disant et rappelant que le colonel Argout avait été un des défenseurs de l'Algérie française, mais surtout de tous ceux qui sont tombés là-bas après, puisqu'il en a souffert, puisqu'il a été emprisonné. Mais alors le corps est sorti. Alors j'ai dit, rien n'est définitivement clos. Et le corps est ressorti sur l'air, victoire tu régneras, comme il était rentré. Rien n'est définitivement clos. Je viens de parler depuis 2-3 jours avec des Kabyles, avec donc des Berbères. Il y a actuellement énormément de conversions, c'est peu su, jeunes Berbères.
J'ai fait un papier dans le Libre Journal là-dessus.
Ah bon, je ne savais pas. Et alors, j'ai lu une tribune du journal de Kabylie, montrant que le gouvernement s'inquiète actuellement des églises, effectivement. Bon, vous avez la même information. Serge dit la même chose que vous.
C'est pas très surprenant, mais c'est plutôt agréable à entendre.
Je ne le savais pas.
Il y a 15 églises, dont 13 clandestines. 15 églises catholiques, dont 13 clandestines, qui ont ouvert en Kabylie. Et le gouvernement algérien a tapé du poing en disant... Voilà. Interdiction, fermeture des églises clandestines.
Alors sous prétexte,
et nous on a 2000 mosquées en France.
Sous prétexte de mémoire, enfin du patrimoine, ils cherchent combien il y a d'églises, etc. Mais le but, c'est évidemment de savoir qui y va et pourquoi. Donc voilà, bon, c'est tout ça pour vous dire qu'il y a encore de l'espérance et que la chrétienté africaine n'est pas morte complètement et que peut-être demain nous reviendrons là-bas. Et que le sacrifice du père de Foucault n'aura pas été vain et que les fruits qui sont semés dans le désert depuis la mort du père de Foucault, bien, c'est dit dans la Bible que le désert redeviendra un jardin. Voilà, alors je voulais dire bien sûr qu'il y a un film.
Ah oui, alors il y a un document extraordinaire
qui a été tourné et que les gens se rassurent, le père Argouarche ne profite pas de la mort du colonel Argout pour faire de la publicité pour un film qui a coûté très très cher. Il y a 6 heures ou 7 heures d'interview du colonel Argout. On a retenu que 3 heures. Un film de Michel Barski. Alors, il y a quelques années, je crois que c'est un petit peu dans la vocation de Riomont et de notre fondateur, le père Revet, de savoir quitter notre petite colline pour essayer de trouver des témoignages pour la jeunesse de France. Mmh. Et quand je suis parti, on pouvait se demander ce que j'allais faire là-bas, alors que j'étais à ce moment-là prieur d'une communauté. Je suis parti parce que ça fait partie de la mission de Riomont d'être là quand il faut. Et nous sommes partis chez lui. Il a été d'une gentillesse admirable. D'ailleurs, son bureau ressemble à un PC. Et il s'est livré totalement de façon très charitable. C'est pas agréable d'être interviewé et surtout après tout ce qui s'est passé. Mais si vous voulez, il s'est sanctifié dans ces dernières années. Autant le livre
L'imposture, l'honneur et la décadence, se terminent par son amour des chevaux, et on a l'impression d'un rejet, en même temps, bien sûr, de la France, mais de la religion catholique. Et en fait, il s'est sanctifié tellement qu'il a pardonné et qu'à la fin de sa vie, il est mort comme un saint. Mmh. Moi, je l'ai connu dans les dernières années de sa vie, peu, malheureusement, mais chaque fois, c'était très spirituel et toujours l'âme, notre âme était élevée par ses propos, alors qu'il avait... bien sûr, de quoi se révolter par rapport à toutes les avanies qu'on lui a faites. Donc voilà, ça s'est très bien passé, ce film.
Il faut dire que cette cassette qui a été faite par Barsky, c'est un film de 3 heures d'entretien.
Et on a sélectionné. Avec on a beaucoup colonel. Plus, je dis, on a 6-7 heures d'interview.
Et alors, on peut encore se le procurer, parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'il a été fait. Je vais vous donner l'adresse à laquelle vous pouvez vous le procurer. Et son prix... Donc, ça s'appelle « Pour l'honneur d'un drapeau ». C'est une interview exclusive du colonel Argou, 180 minutes, film de Michel Barsky. C'est diffusé par Itac Film, qui est la société vidéo de Michel. Alors, Michel, j'espérais qu'il serait là ce soir, mais il ne peut pas, il a trop de travail. Il faut savoir que c'est lui qui a fait National Vidéo, qui fait les cassettes.
Mais Michel Barsky, d'une humilité, ce soir il aurait pu venir et bousculer, mais voilà, il est très humble, c'est un garçon charmant.
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelqu'un de chez nous totalement, c'est pas du tout un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui se dévoue à la cause avec son arme, qui est la caméra vidéo, d'une façon héroïque, on peut dire, héroïque, parce qu'il vit vraiment comme un moine. Hein.
Ah oui, oui, oui.
Uniquement pour faire vivre notre mémoire. Donc, ce film est publié par Itac Film, 63 rue de Courcelles, c'est à cette adresse qu'il faut le commander, 63 rue de Courcelles, 75 008 Paris, 63 rue de Courcelles. N'envoyez pas avenue ou boulevard, parce que c'est bien la rue de Courcelles. Et ça coûte 27 euros franco pour une cassette de 3 heures d'interview. Et c'est un outil formidable de formation des jeunes, notamment des jeunes qui s'interrogent sur... la validité d'un engagement militant, d'une carrière militaire, sur les grandes questions qui peuvent agiter un garçon de 15-16 ans, la patrie, le sacrifice personnel, l'investissement, tout ça.
L'honneur. On nous a reproché que ce film n'était pas un film d'action. Au fond, les jeunes, maintenant, ils veulent voir des films d'action comme un James Bond. On ne peut pas présenter le colonel Argou comme James Bond. Il l'était, par certains côtés. Il a fait des trucs extraordinaires. Mais enfin, que les jeunes qui m'écoutent sachent rester 3 heures avec un crayon et un cahier pour prendre des notes. Parce que si on ne fait pas ça, c'est pas la peine. Ce film est profond.
D'ailleurs, il y a une chose qui est, à mon avis, pardon de vous couper, mais il y a une chose que peuvent faire, par exemple, les jeunes identitaires qui se démènent beaucoup en ce moment, qui travaillent, j'en parlerai d'un mot juste après, pour assurer la formation des jeunes, des tout jeunes, c'est de prendre cette cassette et d'en faire une soirée de projection.
Et débat.
Et suivi débat, d'explications, surtout. Pour restituer les choses, et puis surtout pour tirer de cette cassette tout ce qu'on peut en tirer aujourd'hui pour la formation des cadres politiques.
Il faut savoir que tous les entretiens sont illustrés. Michel Barsky a été cherché, vous le savez, dans les journaux, dans les photos de l'époque, dans les témoignages, etc. Mais c'est fabuleux.
C'est un travail magnifique.
C'est un travail de patience qui représente des centaines d'heures de travail. Michel Barsky travaille souvent la nuit. D'ailleurs, il a perdu une partie de ses yeux par son travail. C'est vraiment pour nous, pour notre famille de pensée, quelqu'un qui est actuellement irremplaçable.
Oui. Et quel est le prix, pardon, le
27
prix...
euros. C'est Franco
de Port.
Donc, Itac Film, I-T-H-A-Q-U-E Film, 63 rue de Courcelles, 75 008 Paris, 27 euros franco, et vous demandez pour l'honneur d'un drapeau. Vous pouvez demander en même temps le catalogue les cassettes de Michel, qui a fait des cassettes, notamment pour les gens qui, comme moi, appartiennent à la deux ou troisième immigration russe, ou première immigration russe, qui sont les enfants de la première immigration russe. Il a fait des choses tout à fait extraordinaires sur ce sujet.
Est-ce que ça existe en DVD ?
Non, pas encore. Non, non, mais ça viendra peut-être un jour. C'est tellement maintenant évident que je pense qu'il faudra le faire.
Je voulais dire. Pardon, une auditrice nous dit il ne s'agit pas de conversion, puisque c'était la religion d'origine des Berbères. Vous voyez, Saint-Augustin.
Oui, bien sûr.
Oui, mais certains
ont été
aujourd'hui.
Les retours à la...
aux sources. Ils sont passés à l'islam de force et reviennent maintenant. C'est très très beau.
Alors, mon père, vous vouliez dire encore un mot
sur... Oui, simplement pour dire qu'il y a eu un moment très fort à l'enterrement. Tout au début, en tenue camouflée, cette fameuse tenue interdite par le général de Gaulle après 1962, quand j'étais au 13e RDP, j'ai pas pu porter la tenue camouflée, tellement le général de Gaulle avait peur des parachutistes et de tout ce qu'ils représentaient. Eh bien, Antoine Argout, donc l'aîné des fils Argout, s'est avancé au début de la messe pour lire un texte magnifique de Jean Brune, tiré de son livre Interdit aux chiens et aux Français. Mais si ça résume bien cette quête de Dieu du colonel, et il dit à la fin, il appartenait moins à la race des soldats qu'à celle des mystiques ou des artistes qui brûlent tout pour nourrir ce brasier des hautes certitudes qui flambent en eux. C'est vrai qu'il l'a dit avec beaucoup de force, avec talent, dans une sorte de grâce qu'il avait à ce moment-là, parce que c'était son père. Et je crois que ce texte de Brune a touché tous les cœurs, et c'était l'essentiel au fond du message. Peut-être plus fort, le sermon était excellent, peut-être plus fort cette quête de Dieu que nous devons tous avoir.
Est-ce que vous pouvez en 5 minutes faire pour nos auditeurs un point sur le village, sur Riomont, le Gerveur et l'église?
Voilà, Riomont, oui, c'est vrai que c'est un peu tentaculaire. Quelquefois on nous dit, pourquoi est-ce que vous lancez? On m'a reproché, on nous dit, mais attendez, Riomont, pourquoi est-ce que vous restez pas sur votre petite colline? Vous allez faire des choses ailleurs, etc. Restez un peu plus humble. Non, mais c'est parce qu'on a des appels de la Providence, de la grâce. Le Gerveur, en 30 secondes, eh bien, on attend toujours le rapport de la DDE, qui a été retardé à cause des études de terrain. Mais enfin, on sait que c'est un rapport très positif. Je remercie, une fois de plus, c'est bientôt le cocktail du Secours de France. Je remercie le Secours de France pour cette somme formidable qui nous permet de faire un troisième toit et de sauver une grange de plus pour nos enfants. Et pour la jeunesse de France, le Secours de France nous aide parce que le Gerveur sera un village, un centre pour la jeunesse de France, pour la formation des jeunes en France qui pensent que tout n'est pas perdu. Et alors le Gerveur, voilà, nous aurons plein de camps cet été. Si vous voulez passer au Gerveur, vous me verrez entre le 3 juillet et le 25 juillet. C'est tout près de Lorient, c'est tout près de Plouay, et c'est fabuleux, on vous recevra. D'autre part, Riomont. Alors Riomont, l'église. Alors, j'ai téléphoné tout à l'heure au frère Olivier pour savoir exactement combien de tonnes de pavés sont arrivées. Parce que il y a eu une vente aux enchères, et pour 700 euros, on a eu... alors, 1400 tonnes de pavés qui sont arrivés. 1400 tonnes, c'est incroyable. Si le bon Dieu veut pas son... C'est pas des grès d'Artois, c'est des granites. Je vous disais tout à l'heure, la boutisse, c'est le double pavé qui nous permet évidemment de faire beaucoup de choses, en particulier pour les façades. Bon, alors, il y a un problème, c'est toujours la sécurité, et c'est un nouvel appel que je lance. Je sais que nos bienfaiteurs se disent, mais enfin, à Riomont, ils n'arrêtent pas de nous solliciter, mais c'est vrai que ce petit village est en butte à la contradiction, souvent.
Il n'y a pas beaucoup de gosses de riches à Riomont, c'est ça aussi.
Non,
pas beaucoup les moyens.
Non, c'est pas avec les pensions qu'on arrive à tenir. Alors, voilà, on a fait un bâtiment, on a trois bâtiments énormes, on a fait Godefroy de Bouillon. On a pratiquement terminé. Bon, et puis la sous-préfecture nous a dit, maintenant il faut continuer. Alors il y a le deuxième bâtiment à faire, c'est des portes anti-feu, ça a l'air de rien, mais c'est des plafonds, c'est l'alarme, bien sûr, etc. Alors, si vous voulez nous aider, c'est pas le Gerveur qu'il faut aider actuellement, c'est l'église, oui, c'est Dieu premier service, si vous voulez faire un gros don. Mais tous les petits chèques, il faut qu'ils arrivent pour Notre-Dame de Riomont. Eh bien, vous écrivez à Riomont, vous envoyez
pour la sécurité, pour que Riomont ne soit pas fermé. Car à chaque fois, on nous dit, si vous ne continuez pas vos travaux, on ferme. Donc c'est un flux de petits chèques qui doivent arriver pour qu'on tienne. Donc je dirais aux bienfaiteurs qui m'écoutent et qui aiment notre œuvre, ne lâchez pas vos dons, ne croyez pas que ça s'arrête là, il faut continuer. Et puis, ce que je dis souvent, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc je compte sur tous. Voilà.
Alors, si on veut aider Riomont pour l'équipement en sécurité des bâtiments, il faut libeller le chèque à quel ordre ?
À Notre-Dame de Riomont.
Notre-Dame de Riomont.
Voilà.
Si c'est l'église ?
Sainte-Croix de Riomont.
Alors, Notre-Dame pour la sécurité,
oui.
Sainte-Croix pour l'église, c'est
voilà.
Facile à retenir.
Oui.
Et pour le Garveur,
ah ben c'est
moment,
les scouts et guides de Riomont, mais je vous en supplie, le Garveur, on va faire un tract formidable. Je m'adresse aux 600 bienfaiteurs du Garveur. Vous n'avez pas de nouvelles depuis pratiquement un an et demi, deux ans. J'attends le rapport de la DDE, on va faire un tract, une plaquette de présentation, on va démarcher les grands PDG pour sauver le patrimoine breton, qui est aussi le patrimoine de la France, faut pas l'oublier. Et donc, voilà, aider Riomont pour la sécurité actuellement. Il faut qu'on tienne et que Riomont ne soit pas fermé. Si en octobre, on ferme Riomont, ça sera pour un an, deux ans, ça sera difficile à remonter.
Bien sûr. Voilà, donc les chèques, on peut les envoyer à quelle adresse ?
Village d'enfants de Riomont, R-I-A-U-M-O-N-T, boîte postale 28 62 801. Liévin, L-I-E-V-I-N, CEDEX.
Et c'est intitulé, donc, l'intitulé du chèque.
Alors,
pour l'église
Sainte-Croix de Riomont.
C'est celui-là.
Pour la sécurité, je vous en supplie, envoyez un chèque pour la sécurité. Et même un gros chèque, si vous pouvez. Alors là, on sera content parce qu'on va avancer, enfin, les travaux. Un jour, on vous dira, ça y est, on en a fini de la sécurité, on en a fini du sous-préfet, on a fini des maires, on en a fini des enquêtes de l'administration. On en a ras-le-bol. Et ils sont pas méchants, en plus. Non, c'est vrai, ils sont pas méchants. Ils disent, continuez les travaux, autrement on vous arrête. Ah oui, mais la pression, elle est là. Et puis, il faut quand même que ça arrive. Et puis,
alors, l'intitulé du chèque, parce que vous l'avez pas dit.
Notre-Dame de Riomont pour la sécurité.
C'est le plus Merci. Important à faire en priorité.
Notre-Dame de Riomont, la sécurité. D'ailleurs, le père Alain a envoyé une circulaire très bien faite qui sera reprise par Arnaud de la Suze dans l'action familiale et scolaire. Cet appel en faveur de la sécurité pour que Riomont tienne. Bon, on tient le bon bout, mais avec vous, chers bienfaiteurs, et avec vos prières. Vos nombreuses prières pour le village, on en a besoin. Pour nos garçons, et surtout que la Sainte Vierge nous protège pendant les camps, qu'il n'y ait pas d'accident.
Et puis alors, on nous dit qu'une messe sera célébrée pour la mémoire du colonel Argou, samedi 19 juin à 10h30 à Saint-Nicolas-du-Chardonnay.
Oui, c'est paru partout.
C'est exact.
Merci. Ben
j'aurais
c'est
dû
mieux,
le signaler.
Donc comme ça, c'est dit
Merci.
Ici aussi.
Merci.
Voilà. Samedi 10h30, Saint-Nic. Merci mon père, à bientôt, vous reviendrez nous parler.
À bientôt parler. Pour de nouvelles aventures, je suis content que vous me trouviez en forme, ça me fait plaisir.
Ah oui, vous êtes magnifique, ça pète le feu. Marquis, on va changer complètement de sujet. Au cours, enfin, oui, si on veut. Qu'est-ce qu'il y a encore ?
Est-ce que je peux lui poser tout de suite une question d'auditeur ? Le Marquis pourrait-il nous dire deux mots sur les quartiers de noblesse du prince de Lusignan ?
Alors moi je sais pas qui c'est déjà, donc j'avais été invité à cette fameuse soirée, j'ai regardé, moi je veux pas me fâcher avec personne, j'ai trouvé de traces nulle part.
C'est non, déjà...
J'ai trouvé de traces nulle part, j'ai pas encore ouvert l'encyclopédie de la fausse noblesse et de la noblesse d'apparence, je l'ouvrirai peut-être pas.
Voilà. C'est pas mal pour pas se fâcher votre truc là, c'est très bien. Bon alors... Le duc de Beaufort, lui, il est...
Il faut pas être trop regardant là-dessus. Ben, tiens, je vais en profiter pour dire ce que j'ai sur le cœur. Vous savez, je sais pas qui c'est, je le connais pas, donc soyons tranquilles. Mais il y a toute une catégorie de gens qui sont extrêmement tatillons pour savoir qui est qui fait quoi, pourquoi, combien de quartiers, d'où il vient, où il va. Ils sont un peu moins regardants quand on leur fait un chèque, déjà. Et je voudrais dire, par exemple, que dans l'entourage du duc de Beaufort, on est très regardant sur la particule, un peu moins sur la partie tête. Et Mais en revanche, on nous présente toujours comme Madame la Duchesse de Ségovie, une dame qui est née d'Ampierre, qui a épousé le Duc de Ségovie, dont elle a divorcé. Il est mort par la suite, il s'est remarié deux fois avant de mourir. Ensuite, elle s'est remariée avec M. Solzali, dont elle a divorcé. Mais comme on n'a pas de duchesse à se mettre sous la main dans les grandes cérémonies, on va chercher Madame ex-Solzani, qui devrait aujourd'hui à l'état civil s'appeler Madame de Dampierre, et qu'on présente que la Duchesse de Ségovie. Alors foutez-nous la paix avec vos recherches.
12 000 amis de plus pour le marquer.
5 000 abonnements en moins.
Alors on va donc poursuivre dans cette opération de relations publiques parce que vous étiez
à Saint-Denis pour Louis XVII. J'étais à Saint-Denis pour l'enfouissement du cœur d'un enfant de Marie-Antoinette.
Voilà.
Reconnu comme tel. Voilà, c'est.
Et alors qu'est-ce que vous avez retenu de ce...
Un moment d'émotion quand même parce que c'est pas mal. Un semblant de repentance de la part de la République, une grande ferveur, et puis, comme d'habitude, les très mauvaises manières des gens qui organisent tout ça. Ils oublient qu'ils ont affaire à des gens qui payent des cotisations, qui font des dons, qui sont purs, qui ont pris une journée pour venir, parce que c'était en semaine, etc. Et quand ils arrivent, ils sont traités comme du bétail. On se fait engueuler, même si on a un carton d'invitation. Alors, a fortiori, si on n'en a pas, c'est tellement bien organisé qu'on interdit à des tas de gens de s'asseoir ici ou là pour marquer un peu les privilèges, parce que si t'es pas au troisième rang, c'est que t'es pas bien, donc tu vas au quatrième. Puis après, l'office commence.
La particule, c'est jusqu'au troisième rang.
Après. Hein, et puis alors d'un seul coup, l'office commence et vous avez plein de places vides et des gens âgés ou handicapés qui restent debout, parqués sur les côtés et personne viendrait les inviter à venir s'asseoir. Alors mon grand truc, c'était l'autre jour, et ben bravo, vive le roi, vive Dieu, vive la charité, tu l'as dit, Bouffi. Hein. Et tout ça, c'est l'énergie du duc de Beaufremont.
Je ne sais pas que le duc de Beaufort avait des nervis.
Ah oui, vous voulez que je dise que ce sont des nasillons fleur-de-lysée, c'est ça?
Non, moi je
vous poserai des questions parce que il y avait un déjeuner aussi qui a été admirablement désorganisé. Il fallait nourrir 500 personnes, dont une centaine de princes, tous chômeurs, quoi, n'ayant pas peur des mots. Donc, dans tous ceux qui ont mangé, il y en a que la moitié qui avait payé. Et là, ça a été un folklore absolument épouvantable. Bon, et il fallait mieux ne pas organiser un déjeuner puis dire aux gens, bah, faites ce que vous voulez, vous reviendrez à 15h pour la cérémonie ultime, ça aurait été mieux. C'était le seul moment d'ailleurs vraiment là très émouvant, parce que bon, la messe concilière le matin, ça pouvait encore aller. Mais les trois quarts d'heure qui ont duré la descente dans la crypte du cœur, ça c'était émouvant, c'était très bien. Puis tous les esprits étaient calmés, parce que l'énergie avait tellement vibrillonné depuis la veille au soir, qu'ils étaient un peu fatigués, donc ça allait mieux.
Et sur le fond, sur le cœur lui-même, vous avez une...
Moi, je m'en tiens les résultats ADN. Ce que c'est le cœur d'un enfant de Marie-Antoinette.
Voilà.
Mais comme ça, en même temps, si vous voulez, ça ferme pas le chapitre et ça laisse place à la rêverie 20 ans après, le vicomte de Bragelonne et ainsi de suite. Hein. Et puis il y a des gens qui font commerce de tout ça, il faut qu'ils continuent quand même. Ça en fait vivre pas mal. Parce que si c'était définitivement Louis XVII et rigoureusement rien d'autre, on fermerait le bouquin. Mais c'est pas drôle.
Mais on pourrait croire, à vous entendre, que vous êtes un royaliste révolutionnaire.
Oui. Non, mais parce que j'aime, c'est le principe. Les gens qui sont dedans, ils ont tendance à me gonfler un peu, vous voyez, pour l'instant, parce qu'ils en font commerce. Moi, le système monarchique me plaît. Bon, après, les princes, c'est une autre affaire. J'ai mes sympathies, parce qu'il y en a qui sont bien élevés, certains qui sont très gentils, il y en a d'autres qui sont imbuvables. Mais, oui, moi, je suis révolutionnaire, je suis pour qu'on... ce pays fonctionne, enfin, mon pays fonctionne comme une monarchie. Bon, apparemment, c'est pas possible, mais je peux toujours rêver. Mais tout ce qu'il y a autour et tout le commerce qui en est fait me tape sur les nerfs.
Et alors, en tant que royaliste, vous avez voté aux européennes,
non ? Non.
Pourtant, il y avait une liste royaliste.
Oui, enfin, je viens de vous dire que je n'aimais pas le folklore qui s'attachait autour de tout ça. on a reçu même ici le secrétaire général de l'action, comment ça s'appelle
L'Alliance
Royale. Bah oui, mais bon. Pendant que je déjeunais justement à Saint-Denis, il y avait une dame qui était adhérente de l'Alliance Royale qui en parlait en disant « Oh, ils sont sympathiques, mais j'y crois pas du tout ». Alors vous voyez, déjà, c'est pas la peine de se fatiguer. Voilà.
Donc vous croyez pas à la démarche démocratique de conquête du pouvoir et de restauration de la monarchie par la voie des urnes?
Ah non, on peut pas, de toute façon, tout est ficelé. Il faut tout casser.
Une auditrice.
Vous faites beaucoup de peine.
Oui, je m'en doute.
Une auditrice vous fait tout de même remarquer que le divorce n'est pas reconnu dans l'Église catholique et que par conséquent, elle, dont vous avez parlé tout à l'heure, est toujours mariée au duc de Ségovie devant Dieu.
Ça a été annulé à Rome.
Ah, Seigneur.
Ah. Non, je me serais pas permis une telle sortie si j'étais pas sûr de mon fait, parce que c'est quand même pas très gentil ce que je viens de dire. Mais oublions cette dame, ce que j'aime pas, c'est le principe. C'est de venir titiller des gens pour savoir si vraiment ils ont 3 quartiers, 12 quartiers, s'ils ont le droit de s'asseoir ici ou là. Mais que quand on a besoin d'un grand nom, on n'est pas très regardant. Et en revanche, n'importe qui fait un chèque, là, on va pas l'examiner, on l'encaisse. Si c'est un faux duc, un faux marquis ou un faux comte qui fait, ou un faux baron, si le chèque est bon et provisionné, on ne va pas lui refuser.
Il préfère un vrai chèque signé par un faux duc qu'un faux chèque signé par un vrai duc.
Oui, voilà. Un auditeur nous dit quand même que ce personnage qui parle, c'est vous, est odieux.
Ah bah oui,
tout s'est vrai. Très bien passé là-bas et tout a, et c'était organisé par des bénévoles. Alors,
ah bah oui, mais le bénévolat, ça n'autorise pas à être méchant.
Serge, j'ai des petites annonces.
Oui, non, mais on va les passer par perte et profit, des petites annonces.
Parce que...
Et puis ce monsieur était peut-être parmi les organisateurs, celui qui dit ça, sûrement.
Alors, samedi prochain, 19 juin, de 15h à 18h30, Pierre Hillard dédicacera Minorité et Régionalisme à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e.
Voilà, très bien.
Alors, on revient au livre-journal.
Oui, moi je voudrais, il nous reste 5 minutes, je voudrais que vous me... Comment, monsieur, il reste 5 minutes.
Attends, on va dire que le livre-journal, on peut le trouver, 4 places France 10, en s'abonnant, Paris 10e, dites le prix, je ne sais pas.
Non, c'est pas... C'est
110
pas
francs
que je voudrais parler.
Par l'abonnement. Bon,
ben, Victoria veut pas...
110 euros, pardon.
Ça va finir quand
110 euros, l'abonnement.
110 euros, l'abonnement.
Noël.
Non, je
et on
vous
peut négocier
de votre papier sur le livre de Madame René Saint-Cyr.
Alors, oui, je fais ce papier qui est un peu un papier d'humeur parce que Mademoiselle Saint-Cyr, qui est maintenant très âgée, hélas plus très en forme, a donc sorti un livre et ça a suscité autour d'elle quelques polémiques, quelques agacements. Et moi, je voulais remettre un peu les pendules à l'heure, donc j'ai fait un papier dans lequel je dis qui est le monsieur dont elle parle dans son livre sans jamais le citer. Et au passage, j'égratigne quelqu'un qui est quand même un copain, mais qui a un peu fait une espèce de torture humaine autour de René, et voilà.
Lui tout seul, je fais la torture humaine.
Oui, ça prouve son talent.
Alors, quelle autre aventure vous est-il arrivé récemment que vous ayez envie de nous raconter pendant les 3-4 minutes qui nous restent?
J'invite surtout les auditeurs à s'abonner au journal pour me lire.
Oui, ça, c'est sûr.
Ça, on va gagner du temps et puis Victoria pourra faire ses annonces, non?
Ah bon,
non, je voudrais que vous me racontiez votre mot à Trouville quand même.
Ah, sur les mouettes?
Ah oui.
Bah, alors, je fais très très vite. On me reproche toujours de parler trop vite, mais j'explique qu'on a le temps illimité. À Trouville, en ce moment, il y a des gens, ça doit être les Parisiens qui viennent en week-end, qui trouvent que les mouettes sont dérangeantes. Alors, les mouettes qui dérangent à la mer, ça me paraît invraisemblable. Et donc une radio locale qui a décidé d'enquêter. Et juste avant de rentrer pour Paris, j'étais assis à la terrasse d'un café célèbre de Trouville, puis il y avait des gens autour, et je vois arriver la nana très hippie avec son micro, je me dis à tous les coups, c'est pour les mouettes, ça n'a pas loupé. Bonjour monsieur, que pensez-vous des mouettes? Je les adore. Ah, enfin. Et pourquoi aimez-vous les mouettes? Eh bien, j'aime beaucoup les mouettes parce que leur chant me rappelle le cri d'un enfant qu'on égorge. Et la fille part en courant, et à la table d'à côté, le papa, la maman et les 5 gosses qui étaient en train de goûter éclatent de rire, et ça a été ma récompense de cette grosse bêtise. Ouais.
Vous êtes insortable. Même quand vous êtes tout seul, vous êtes insortable. Merci Marquis. On peut vous lire donc dans le Libre Journal.
Oui, cette semaine, et puis, copieusement.
Et puis on peut vous entendre sur Radio Courtoisie.
Vous croyez que j'ai le droit de revenir la semaine prochaine?
Oui, moi, la semaine prochaine, je ne sais même pas si j'ai une émission.
Enfin, on avait noté jusqu'à...
Non, c'est pas vous la semaine prochaine.
On avait noté jusqu'en juillet, donc ils vont nous subir encore.
Oui, oui, oui. Il faudra qu'ils s'y fassent. Moi, je me suis bien fait.
Oui.
On nous demande de répéter les références sur le film concernant le doctorat. Le colonel Argou.
Alors,
ça s'appelle Pour l'honneur d'un drapeau, interview du colonel Argou. Édition ITAC, ITHAQUE, et c'est 63 rue de Courcelles, Paris 8e, prix 27 euros.
Alors, attendez, je vais dire du bien de Goffman, juste pour vous embêter.
Ah, mais non, mais moi, je n'y vois aucun inconvénient, je ne lui en veux pas du tout.
Il a fait un papier.
D'avoir ce caractère de chien.
Il a fait un papier irrésistible dans le dernier numéro du Libre Journal, celui qui est sorti à l'instant. Sur un trotskiste, alors c'est un sujet qu'il connaît bien.
Ouais,
et alors, vraiment, j'ai ri. Il y a deux papiers très très drôles, qui m'ont fait beaucoup rire. C'est le vôtre, cher Marquis, et puis celui de Patrick, intitulé Martyr trotskiste, où il cite cette phrase admirable à propos des trotskistes de Marx. Enfin, elle n'était pas à propos des trotskistes, mais qui s'adapte tellement mieux aux trotskistes. Marx disait : j'ai semé des dragons, j'ai récolté des puces.
Je trouve ça splendide. Voilà. C'est tout. Alors,
on a encore deux petites minutes. Alors, où en est Serge Le Becquetch avec ses démêlés avec la politesse de la pensée?
Et moi, je suis dans l'expectative, comme disait la personne qui était dans l'expectative. J'attends que la police de la pensée me fasse connaître les conclusions de la police tout court, qui m'a entendu, qui a enquêté sur mes crimes abominables et qui essaye d'établir la réalité de ma culpabilité dans cette affaire.
Dans les spectatifs, c'est pas dans la prison.
C'est pas encore dans la prison, non. Mais je crois qu'ils ont quelques difficultés, mais enfin, je veux pas les plaindre, certainement les aider. Mais voilà, j'attends donc avec sérénité et détermination la suite des événements. Mais ça va devenir de plus en plus difficile, il faut bien le savoir. Il suffit de regarder le Monde de ce soir qui annonce une nouvelle répression contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme. Et il cite notamment les sites internet islamistes ou d'extrême droite, mais curieusement pas les autres. Alors je connais deux ou trois sites que je pourrais indiquer qui mériteraient pourtant qu'on s'y intéresse beaucoup, mais je ne le ferai pas car moi je n'appartiens pas à la police de la pensée. Je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours si Dieu veut, et que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge Le Becquetch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 16 juin de 18 à 21h, en différé jeudi 17, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30.